comme le dit Fraud Shader à l'instant dans le chat, ça réveille cette musique. Oui, ça réveille un petit peu et ça fait du bien. Très heureux de vous retrouver. J'avais annoncé un live à 10h, il est 10h06, moins 3 minutes de musique, 3 minutes de retard. Hyper fort en maths, tout va bien. 3 streams hier. Non, 2. 3 2, 3 streams hier. Revue de presse le matin. Valorant l'après-midi. 2 win, 2 lose, bon, enfin, comme d'habitude, quoi. Un stream le soir, je me suis régalé. Un stream où on a pensé ensemble tous les donation goals du The Event dans un mois. Voilà, mon premier The Event en tant que streamer. Voilà, c'est un travail, c'est une belle collaboration. On s'est mis dessus pendant 3 heures hier. 3 heures. Ouais, et en vrai, on a pondu, je sais pas, une quinzaine de donation goals avec des objectifs financiers de collecte pour les assos, notamment pour le Secours Populaire, mais il y a plein d'assos aussi pour les agriculteurs les plus déshérités, pour les jeunes en précarité également. Et donc, on a mis à la fois des objectifs et des paliers, des trucs à faire. C'était vraiment sympa. Je mettais tout ça en ordre et puis, je publierai ça, peut-être quelques jours avant le The Event, quoi. Voilà, faut que je réserve mes billets. D'ailleurs, je pense que je vais y aller en train. Faut que je vois au niveau du setup si j'emmène mon setup d'ici, si je prends... Je me demande si je vais prendre un PC, un... Samuel, il faudra faire valider Donation Goal auprès de Zera. Ah, je savais pas. Tom Thompson. Il faut faire valider Donation Goal auprès de Zerator. Ok. Ah, je savais pas. Zera doit valider. C'était pas dans les infos que j'ai reçues jusqu'ici, mais j'attends d'autres infos. Ah, tu trolles. Ah, putain, je me suis bien fait troller. Je me suis bien fait avoir. Ah, la vache, tu m'as bien eu. Cochonou, va. Merci Jocelyn pour le 10e mois. Merci Amo TTO pour le Prime. Merci Love and Liberty pour le Prime. Joli pseudo. Merci Miracle pour le Prime. Ok, d'accord. Le The Event, c'est dans un mois. Ok. Tu peux les montrer? Non, ils sont pas encore en forme. Mais ils sont super. Ouais. Ouais, on a tout fait hier soir. Ouais. Tu nous le fais de temps en temps, tu nous troches, je te rends l'appareil. Bien joué. Ouais, non, je me demande si je vais emmener mon setup avec mon gros PC là, ou vu que j'ai streamé tout le mois de juillet en Corse avec mon setup portable, vous savez, PC portable, écran portable. On a joué à Valo, on a joué à Elden Ring, à tout en vrai. Ça tournait. Je me demande si je vais pas partir avec mon setup portable. Ça tourne, hein. Je sais pas, j'en parlerai avec les organisateurs. Je vois pas en quoi, parce que c'est beaucoup plus léger à transporter, c'est une petite valise. Je ne vois pas en quoi le The Event serait plus exigeant techniquement que 3 semaines de stream en Corse. Hein, comme le dit Sugar Frog, si ça tourne, en vrai, il n'y a pas de raison. Ça fonctionnait très bien, dry, super. Hein, on a fait, 3 semaines, raison de un stream par jour. Ça a tourné tout l'été, comme dit Sticou. Hein. Ouais, pour pas m'embêter avec le matos. Attention au bruit ambiant, il y en a beaucoup. Alors, de toute façon, moi, je travaille toujours avec mon casque là, voilà, au niveau du son, c'est toujours important pour moi. Donc même en voyage, j'emmène de toute façon ma configuration son habituelle, quoi. Ouais. Il fait pas location, il y a sûrement loc, mais on a eu une petite surprise à la Zilan. Le gars qui s'occupait de la loc était topissime et tout, hyper rigoureux, mais on n'a pas eu de chance. On a eu un PC qui a un peu merdé. Et j'ai failli louper le début de ma Zilan. Voilà, ça nous a un peu stressé. Voilà, les manettes, faut pas oublier les manettes. Si ton setup portable refroidit bien, c'est bon. Ouais. Non, j'ai ce qu'il faut pour refroidir, ouais. T'auras un deuxième écran quand même. Ouais, bien sûr. Parce qu'on est, joueurs d'e-sport ici. Hein. On est compétiteurs. Hein. Ouais. Là, c'est un stream quasi continu sur 3 jours, donc il faut que ça suive. Ouais, il y aura des petites pauses. J'irai dormir 3-4 heures quand même. Ouais. Ah, prévois bien un deuxième casque, voire troisième pour toutes les personnes qui vont venir interagir. Eric et Volzy, très bonne remarque. Ah oui. Alors, des casques de cette qualité à 400-500 balles le bout, j'en ai qu'un. Hein. Ouais. Un clavier de secours, ouais. Ah ouais. Ah bah non, maintenant, j'emmènerai un micro, un Shure. Un 7MC, c'est quoi, c'est un...
C'est lequel, celui-là?
C'est le 7M7B, je sais pas quoi. SM7B, ouais, c'est ça. J'emmènerai un Shure. J'en vendrai un jour. Ouais. Ah, multi-jack? Non, j'ai pas besoin. J'ai une table de mixage avec 4 entrées, Pierre ou El Fuego. Ah, bah non, tu parles. On est en mode ingénieur du son ici. Non, j'ai 4 entrées, là, je peux mettre 4 micros. T'inquiète. Ah bah non, le son, c'est capital, le son. Ouais. Tu peux le brancher à ton ordi portable? Ah non, ça passe par. Tout ça passe par table de mixage, ne vous inquiétez pas. Mais en vrai, ouais. Un micro, ouais, un micro Shure et puis un casque et c'est fait. Ouais. Ah, il va travailler un petit peu le PC portable, mais il a bien tourné en Corse. Hein. En Corse, il faisait chaud en plus. Ouais, l'XLR, ça passe par une carte son, ouais, même par une. Dans mon cas, par une petite table de mixage. Ouais. Je pense que Joe sera là en secours. Non, Nico Manga. Alors, Joe, c'est mon ami, c'est mon poteau, c'est mon pilier, tout ce que vous voulez, mais 95% de Joe, il est pas là, vous savez, quand je stream, donc. Et ça stream. Joe, il est là pour mes trucs compliqués quand on fait de l'IRL dehors, quand on a besoin d'agréger des connexions, quand on fait des choses un peu compliquées. Hein, mais Joe, il a sa vie aussi, quoi. 99%, il n'est pas là sur mes streams, donc il faut que ça tourne, hein, faut que ça tourne. Hein. Donc, moi, j'ai mon setup, je sais le monter, le démonter, l'installer, le régler moi-même. En Corse, j'ai personne. Hein. Ça se fait tout seul, ça. C'est pas très compliqué en vrai. Hein. Quand tu t'appliques, quand tu es un petit peu rigoureux. Ouais. C'est tout simple, un setup à faire bien. Hein. Donc, et en plus, moi, j'ai demandé à ce que Joe puisse venir et c'est pas possible en fait. Parce que je sais que ça lui aurait fait plaisir, lui. Et en fait, non, parce qu'en fait, Zera veut qu'il y ait vraiment le moins de monde possible hors streamer et streameuse, que je peux comprendre. Parfois, il y a des années où il y avait vraiment trop de monde. Et en fait, petit Sam est devenu grand. Non, mais arrêtez, Joe, il est essentiel à ma vie de streamer, mais j'ai commencé à streamer, je ne connaissais pas Joe. Hein. Je pense que chaque streamer doit maîtriser son matos, sinon, ça ne peut pas marcher en vrai. Il faut qu'il puisse quasiment tout réparer à l'instant T, quoi. Et donc en fait ouais ils veulent que ce soit qu'il y ait le moins de monde possible et donc et Joe pourra pas être là de toute façon ouais. Mais bon après il y aura il y a les Michel hein, il y a toute l'organisation technique et tout quoi après bon, ce sera mon matos donc normalement je devrais pouvoir le faire marcher quoi Il y a un match Valo tu le regardes ouais il y a des VCT en ce moment Kouraka je pense on m'a proposé moi de les caster. Mais bon, ça m'a empêché de faire des revues de presse le matin, ça m'a empêché de faire mes petites parties de gaming l'après-midi et tout ça. Donc, non, voilà. Et toi, elle sera juste là pour faire ta régie de toute façon? Mais arrêtez avec ça. Mais attendez. Et vous pensez qu'il y a quelqu'un sous le bureau ou quoi là? Vous pensez qu'il y a une équipe de 5 personnes quand je stream à côté ou comment? Attendez, arrêtons-nous un instant là-dessus. Merci Jean Mouldeux. Pour le Prime, merci Gros Bob du 31 pour le 23e mois. Arrêtons-nous là-dessus, là. Vous pensez qu'il y a une équipe à côté ou quoi, là, quand je stream l'après-midi, le matin, le soir Non, mais ça se passe comment dans votre tête Mais attendez, c'est une blague ou quoi? Il y a personne, là. Je suis tout seul, tout le temps. Vous êtes chou ou quoi? Il y a 4 ans, Étoile a été là pour le premier stream. Hein, et puis c'est tout. Voilà. Puis au deuxième jour, j'étais tout seul comme un grand. Voilà. Vous êtes trop chou en vrai. Vous êtes trop chou. Pas la télé ici. Hein. C'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est justement que le streamer, il s'occupe de tout. Il s'occupe de il lance son, il lance, il allume tout en arrivant. Bon, là, l'image n'est pas là. Ok, petit problème de connexion. C'est le câble. C'est pas le câble. C'est quoi? C'est un problème avec OBS. Oh, tu relances. Ok, d'accord. Bon. Le son, ouais, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe encore ouais. C'est ça qui est top, justement. Tous les matins, il y a un truc qui déconne. Tous les matins, il y a mon iPad qui veut pas afficher les journaux. Tous les matins, il y a la caméra qui, une fois sur deux, démarre pas. Tous les matins, il y a un problème de son. Et en 5 minutes, ça se règle. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est que le streamer, justement, il gère tout. Et du coup, il maîtrise tout aussi. Il n'est pas dépendant de. Ouais. C'est ça qui est très intéressant, justement, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui, justement, a travaillé en équipe pendant toute sa vie. Bon, après ces échanges techniques, technologiques, comment ça va vous? En ce mardi 6 août, il faut avoir quel âge pour participer à Question pour un champion? Red Eye, il faut avoir 18 ans. Après, il y a des compétitions juniors parfois avec des lycées, mais ce sont les lycées qui s'inscrivent en fait. Ouais. Mais n'hésite pas. Et voilà, merci René Fleur de Paix qui lui sait le niveau d'expertise que que j'ai atteint sur Twitch. Il faut savoir que Sam a énormément d'expérience avec l'informatique. La souris, clic gauche, clic droit, oui. Double clic, oui, c'est vrai. Ah, renifle, oui. Envoyer des emails, oui. Recevoir des emails, oui. Supprimer des emails, là, là, c'est quelqu'un qui le fait. Bon, c'est une société qui le fait pour moi, ça. Voilà, exactement. Merci, Renifleur de Paix. Ouais, il y en a qui Super Touffe, merci pour le 9e mois. Est-ce que le fan de sport que tu as a pu prendre un peu de temps de kiffer les jeux à Paris? Non. Non, 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 non. Je laissais à mon épouse hier, elle est allée voir du volley. Elle était trop contente. Non, moi, je préfère. Je stream. Mais je lis tout dans les journaux, ça, c'est mon plaisir. Fatigué, notre bébé s'est réveillé à 4 heures du matin. Waouh, Julie Alice, je t'envoie de la force, mais c'est les meilleurs réveils, ça. C'est une fatigue, et c'est pas une fatigue, les enfants qui se lèvent la nuit, là, les petits bébés. C'est une fatigue parce que, bon, on n'en peut plus, on dort deux heures. Mais c'est pas une fatigue parce qu'on est très heureux, en fait, de se réveiller et de voir ce petit bout de chou, là, dont notre mission est de s'occuper au mieux, quoi. Ouais, nettoyer son clavier avec du café, je sais faire. Merci à l'Ego Vengeur. Ouais. Sam, tu stream le 10 août? Je sais pas, c'est quand le 10 août, Luxurious? Trop deck pour le basket 3-3, on va en parler ce matin, mais médaille d'argent, non? Il se passe quoi le 10 août? 10 août. Attends, je regarde mon agenda électronique. Mais c'est demain, ça? Ah non, on est 6. Ah non, je suis en juillet, là. Ben, regardez pas. Hein. 10 août, c'est quand, ça? Samedi? Ouais, normalement, ouais. Enfin, ouais, enfin, ça dépend, je peux passer le week-end avec mon épouse. Ouais, les Français au jeu, c'est un bonheur. Alors je suis tous les résultats. Ouais. Quoi, mais les deux en surf, quoi? Attends, ça, je l'ai pas dans les journaux, ça. C'est le décalage horaire avec la Polynésie, ça. Attends, on a une médaille. Attends, ne me dis pas qu'il y a une médaille d'or française en surf. Il y a Dry, super, qui nous dit médaille d'or en surf. Surf, allez, Gongeur qui rajoute médaille de bronze, je l'avais pas, moi, ça. 2h du matin cette nuit? On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne l'ai pas vu, ça. Au nom de Dieu! Oh, merde! Or et bronze, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surf au JO 2024. Macron fait un petit tweet. Ah ouais, tu m'étonnes, machin truc. Macron fait un petit tweet, tu m'étonnes. Surf au JO 2024, lors de Colivast. Bronze. Ah, Johan, je ne sais jamais. De fait, grande championne. La nouvelle vague française. On la voit là. Je ne sais jamais si on dit Johan ou Johan. Peu importe, enfin je m'excuse auprès d'elle, je ne le sais pas. Médaille de bronze, c'est beau, ça. Donc, Colivast, originaire de Tahiti. Waouh, le bronze, puis l'or, en quelques minutes, lundi. On dit Kaoli. Merci. Et on dit Johan. Ok, super. Ok, Johan, formidable. Colivast, le surf a écrit sa plus belle page avec le sacre olympique de Colivast. Tout le monde sait qu'on dit Kaoli, hein. Originaire de Tahiti, magnifiant avec panache, la troisième place obtenue juste auparavant par sa compatriote Johan. Tout le monde sait qu'on dit Johan, hein, les autres vous êtes vraiment des. Johan de Fay sur la vague enivrante de Teupo à Tahiti. Trop beau. Je ne me rends pas vraiment compte, mais je viens d'écrire l'histoire, c'est exclamé le premier champion olympique de surf français. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est super. C'est lui, là. Oh là 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 là, l'image, elle est belle. Donc, Colivast a grandi à Maina, dans le nord de Tahiti, avant de s'installer avec ses deux parents véliplanchistes face à la vague de la presqu'île rendue célèbre dans le monde entier au début des années 2000, la fameuse vague. Hein. Oh là là, sa victoire a suscité rapidement des démonstrations de joie un peu partout dans Tahiti. J'ai surfé, jeune. T'es pas un grand surfeur, mais j'ai surfé en Bretagne, ouais. J'ai surfé en Bretagne, en voyage aussi à une époque quand j'étais célibataire, je surfais un petit peu, j'emmenais ma planche partout. J'étais pas un grand surfeur, j'aimais bien ça, je passais pas mal de temps sur ma planche, enfin, assis sur ma planche à attendre les vagues surtout. J'aimais bien ça. J'ai eu 2-3 ans où j'étais vraiment, je faisais que ça. Je travaillais pas beaucoup, j'étais journaliste à RFI, je travaillais 5 jours, je me reposais 5 jours. Le rythme de travail à RFI, Radio France Internationale, 5 jours de travail, 5 jours de repos. C'était ça. Bon, me demandez pas pourquoi. Du coup, j'avais du temps. Et ben, je surfais. Hiver, été. L'hiver, j'avais ma combi avec la cagoule, les chaussons, tout. C'était pas mal comme rythme, quoi. Waouh, c'est super. C'était un Brésilien qui avait gagné à Tokyo. pour la première apparition du sport aux Jeux Olympiques. Donc pour la deuxième, pour les deuxièmes Jeux où le surf était olympique, c'est un Français qui gagne la médaille d'or. Incroyable. Bon, Johan Defay, c'est bien quand même le bronze. Elle a été battue en demi-finale par Caroline Marx. Bon, elle avait le niveau pour choper l'or en vrai. Oh, c'est bien. Magnifique, merci pour la bonne nouvelle. Ouais, attends, on se régale. C'est incroyable ça. France Info, oh là là, l'image de France Info comme elle est belle. C'est Kaoli.
Quelle vague de Kaoli, mesdames et messieurs.
Trop mignon. Oh, c'est super. Ah bah, c'est, bah écoutez, je suis très content de commencer la journée avec ça, quoi. Ok, formidable. Tu regardes et t'écoutes depuis l'Italie. Salut la Mumzette. Allez, ça va ? Tahiti est considéré comme français ? Ah oui, bien sûr, mais Tahiti, c'est la France, culbute, ok. C'est en Polynésie. Polynésie française, c'est chez nous. Chez nous, je vais pas dire chez nous, c'est très, ça fait un peu nationaliste, mais c'est la France, oui. J'ai une amie proche qui a été en poste à l'hôpital de Papette. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, elle s'est mariée avec un Polynésien. Ils ont des enfants magnifiques. En fait, la France ne s'arrête pas à Paris. Hein. Ah, Papette ou Papété, alors ça, j'ai jamais su, moi. Moi, je dis Papette parce que je crois que là-bas, on dit comme ça, je sais plus. Je sais plus. Je sais jamais quand en question pour un champion, ça arrive, j'hésite toujours. Je me demande si les locaux disent pas Papette. C'est pour ça. Je sais plus. Comment t'as été devenu français ? Bon, je sais pas, je m'appelle pas Wikipédia. Hein. Hein ? Alors en fait, TDD, il va falloir que tu bosses un petit peu tes cours d'histoire et que t'ailles voir la différence entre patriote et nationaliste, par exemple. Entre le patriotisme et le nationalisme. Mais je crois que il faut. C'est des sujets que t'as pas dû aborder, mais c'est pas grave. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit, mais c'est quoi le problème d'être nationaliste ? Ben, tu vois, c'est des sujets normalement qu'on aborde en cours d'histoire en terminale, ça. Et le nationalisme et le patriotisme sont des notions assez différentes et qui ont mené à des conséquences assez différentes dans l'histoire de notre pays et de l'histoire du monde même. N'hésite pas à creuser ces concepts d'ailleurs, mais voilà, tu verras qu'il est, à mon avis, il est de meilleure alloi de se dire patriote que nationaliste. Voilà. Hein, le nationalisme dans l'histoire de notre pays et du monde, ça a mené à des trucs un peu bizarres. Alors, tape sur Internet, tu vas voir. Merci la Mumzette pour le 35e mois. Merci Tamtris pour le 3e mois. Merci encore Supertouf. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être patriote ni nationaliste. D'ailleurs. C'est pas mal comme définition. Je pense qu'on pourrait aller plus loin, bien sûr, mais Nelux 23 donne une définition assez simple de cette différence pour ceux qui l'ignorent. Patriotisme, c'est quand on est fier de son pays. Nationalisme, c'est quand on pense que notre pays est supérieur aux autres. Mais un petit peu de ça. C'est un petit peu de ça. Deux jours d'affilée de revue de presse, quel bonheur. Ouais, peut-être même trois. Cela dit, l'un amène à l'autre, pas forcément. Waouh, il y a fricassé de fèves au belota qui élève le niveau et qui complète la définition plutôt sympa qui vient de nous être donnée et qui cite Romain Gary, le romancier, hein, slash Émile Ajar, le patriotisme. C'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Alors là, les gars, je n'ai rien ajouté, c'est magnifique. Citation forte à propos. Merci Zarake pour le 5e mois. On se régale ici. Hein. Ouais, ça drop the mic là. Il y a Frésia qui dit donc quelque part un peu de nationalisme ne fait pas de mal si on enlève la haine. Bah, si tu enlèves la haine à nationalisme, ça devient du patriotisme. C'est un peu le débat de ce matin. Quoi. Après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'accaparent des mots, des concepts et qui mettent ce qu'ils veulent. Tu as des gens qui s'appellent patriotes et en fait, c'est des nationalistes, par exemple. Des petits coquins qui avancent cachés. Bah, mais je me régale de vos définitions en vrai. Bajou stream, parce qu'en fait, on est sur des notions qui sont proches, mais qui ne sont pas identiques. Après, chacun. la langue appartient à tous et le verbe appartient à tous, et on a le droit aussi de mettre ce qu'on veut derrière des mots. C'est pour ça que parfois les débats sont compliqués, notamment sur Twitter. Excellent. Le patriotisme et l'amour de son pays, me dit Barjo Stream, et de ses valeurs. Donc je répète, le patriotisme et l'amour de son pays et de ses valeurs, tout en respectant les autres nations. Le nationalisme, en revanche, exalte sa propre nation au détriment des autres, pouvant mener à l'hostilité et à l'isolationnisme. GG. Jalouas écrit dans le chat, c'est vrai que tu pues le caleçon mouillé. Alors, Jalouas, évidemment, tout ça nous intéresse beaucoup. Donc forcément, tu as le droit à un petit examen de ton historique. Ouais, à 10h21 ce matin, Jalouas, vous êtes tous des Chinois. Tu m'avais interpellé déjà tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Jalouas, il doit avoir 5 ans, ou 6 ans, ou 4 ans. Et bon, j'ai pas bloqué là-dessus, je me suis dit, peut-être quelqu'un qui est un peu fatigué, qui n'a pas très bien dormi. Et donc là, donc 10h21, vous êtes tous des Chinois. 10h27, c'est vrai que tu pues le caleçon mouillé. Caleçon, C-A-L-S-O-N, hein, pour aller vraiment au bout du bout, quoi. Voilà. Je ne sais pas, Jalouas, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi, en fait. Jalouas, à un moment, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Hein. À un moment, je ne sais pas ce qu'on peut faire de toi. J'aimerais tendre la perche, la main du dialogue, mais je ne sais pas si on va pouvoir se comprendre, si tu veux. Je ne sais pas si... l'échange va être compréhensible de tous. J'attends le troisième message avec... Arrêtez de le bully, c'est un enfant ? Alors si c'est un enfant, oui, d'accord, ok. Mais même un enfant, bah moi j'ai deux enfants de 8 et 4 ans, et ils me disent pas, vous êtes tous des Chinois, ou est-ce que c'est vrai que tu sens le caleçon mouillé, si tu veux ? Donc, l'âge ne n'excuse rien, quoi. Il y a des enfants qui sont très brillants. Donc là, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Moi, j'aimerais voir la suite, moi. Moi, j'aimerais avoir le message après, moi. Tu veux pas nous écrire un autre truc ? La suite est déjà là ? On l'a déjà ? Non, je l'ai pas. Attends, je l'ai raté. Attends, vous pouvez pas l'épingler, les modos ? Hein ? T'aimes encore Valo ? Oui, j'aime encore Valo, c'est le jeu qui ne m'aime pas. PTDR, tu fais quoi ? Ouais, d'accord, ouais, ça va être compliqué. Ouais. Merci Chrome Dobby pour le troisième mois. Merci Zaraké encore. Ouais, ça va être compliqué. Moi, je ne sais pas quoi dire à PTDR, tu fais quoi ? Bon. Moi j'aime ce genre d'échange. Voilà. C'est une forme de surréalisme aussi. Moi, j'ai longtemps été un grand lecteur des surréalistes, je trouvais ça fascinant, avec une écriture parfois automatique, une écriture en tout cas étonnante. Les mots ont, à la fois ont du sens et n'ont pas de sens, et on voit à l'imaginaire et à la rêverie, à la poésie. Et là, quelque part, c'est un peu ce qui se passe. On est dans une discussion surréaliste, quoi. Un mec qui écrit à 10h20, vous êtes tous des Chinois, et qui quelques minutes plus tard me demande si je sens le caleçon mouillé, je crois. Et ben voilà, on est dans une forme d'écriture qui rappelle Paul Éluard, qui rappelle André Breton, qui rappelle Philippe Soupeau, qui rappelle peut-être même les chants de Mal d'Aurore du comte de Lautréamont, hein, Isidore Ducasse pour les intimes. Voilà, on est pour moi on touche à la poésie, on touche au divin même peut-être. Hein. Ouais, on est dans une forme d'écriture proche des drogues surtout. Dit Dadigno. Merci Passy92 pour l'abonnement offert à Jalouas. Mais presque dans le dadaïsme, tu as raison, tranquille, Kimiko, en vrai. PTDR, tu fais quoi, Paul Éluard? Je crois que... Demoiselle Sauveur, je crois que Paul Éluard l'a écrit, ça, oui. Je crois que dans Capital de la douleur... Je vais vérifier. Je crois que dans Capital de la douleur, c'est un recueil de Paul Éluard. Je crois que Paul Éluard a écrit ça. PTDR... Quoi, c'est quoi? Vous dites PTDR, tu fais quoi? Oui, je crois. Je crois que... Ouais. C'est magnifique, Capital de la douleur. Je vous recommande, je suis en train de faire des recherches au Capital de la douleur. C'est magnifique, magnifique. Si vous n'avez pas lu Paul Éluard, lisez Capital de la douleur. Je suis dessus, là. Fiche de lecture du bac, non, peut-être pas, non. J'aime bien un extrait, moi j'aime bien... Et partout. Où elle? J'ai un extrait à vous lire de mémoire, d'un poème. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est beau, ça. Oh, ça, c'est magnifique. Moi, j'aimerais bien trouver l'extrait, le poème. En fait, j'aimerais bien vous lire ce poème de Paul Éluard. Mais ça semble pas accessible. Ah, c'est ça. Oh, c'est beau, ça. Paul Éluard, c'est celui qui a créé les Leclerc. Non, c'est un autre. Vous moquez pas, mais moi, c'est, pour moi, c'est... C'est une des choses les plus belles qu'on ait jamais écrites. L'amoureuse, ça s'appelle Paul Éluard. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux, elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Sur le ciel délabré, sur ses vitres d'eau douce, quel visage viendra, coquillage sonore, annoncer que la nuit de l'amour touche au jour, bouche ouverte, liée à la bouche fermée. Inconnue, elle était ma forme préférée, celle qui m'enlevait le souci d'être un homme, et je la vois et je la perds, et je subis ma douleur comme un peu de soleil de l'eau froide. Paul Éluard. Moi j'adore. C'est pas celui que je cherchais. Celui-là je le connaissais, mais. J'en cherchais un autre. C'est incroyable. Hein, on trouve de tout sur Internet. Ah, c'est ça. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est dans les petits justes. Je prends le temps. Hein, je prends le temps. On se fait un petit plaisir ce matin. Okay, Twitch, 6 août 2024. On lit de la poésie, on lit Paul Éluard. Et après, on lira les journaux. Les petits justes, Paul Éluard, 1926. Sur la maison du rire, un oiseau rit dans ses ailes. Le monde est si léger qu'il n'est plus à sa place et si gai qu'il ne lui manque rien. Pourquoi suis-je si belle? Parce que mon maître me lave. Avec tes yeux, je change comme avec les lunes, je suis tour à tour et de plomb et de plume, une eau mystérieuse et noire qui t'enserre, ou bien dans tes cheveux, ta légère victoire. Une couleur, madame, une couleur, monsieur, une au sein, une aux cheveux, la bouche des passions, si vous voyez rouge, la plus belle est à vos genoux. À faire lire la certaine, était-elle en pierre, elle s'effondra. Le monstre de la fuite hume même les plumes de cet oiseau roussi par le feu du fusil. Sa plainte vibre tout le long d'un mur de larmes et les ciseaux des yeux coupent la mélodie qui bourgeonnait déjà dans le cœur du chasseur. La nature s'est prise au filet de ta vie, l'arbre, ton ombre montre sa chair nue, le ciel, la voix du sable, les gestes du vent et tout ce que tu dis bouge derrière toi. Elle se refuse tout... Ah, ça c'est le passage que je voulais vous lire. C'est ça. C'est ça que je cherchais. Elle se refuse toujours à comprendre, à entendre. Elle rit pour cacher sa terreur d'elle-même. Elle a toujours marché sous les arches des nuits et partout où elle a passé, elle a laissé l'empreinte des choses brisées. Moi, j'ai découvert ça, j'avais 17 ans et je ne m'en suis jamais remis. Ouais. Il y a Clément Poitou qui dit super, il y a une répétition dans la deuxième phrase. Ma prof de français m'aurait mis le nez dedans. Oui, mais les poètes n'aimaient pas les profs de français, justement. Parce que c'est la licence politique, c'est la liberté, justement, de l'écriture. Merci Camille Notogal Roby pour le 36e mois. 3 ans d'abonnement non-stop. Merci Raphaël Osmusic pour le soutien. Merci Mister CFO pour le 2e mois. Merci Passy92 pour l'abonnement offert à Jalawa. Je te l'ai dit, mais je te le redis. Allez, est-ce que je fais un petit sommaire de l'actualité de ce matin? Sachant qu'il y aura 3 streams aujourd'hui. Ce matin, revue de presse. Cet après-midi, du Valo. Entre-temps, j'ai des petits rendez-vous. Et ce soir, du Elden Ring, sans doute. Triple stream today. Oui, mesdames et messieurs. Ça fait 4 ans que je stream. Kirov. Oui, mesdames et messieurs. T'es parti? Let's go.
Let's go. Well, yes.
Ok, on y va. Alors, on va parler des Jeux Olympiques, bien sûr, mais moi, j'ai pris l'habitude de commencer par toute l'actualité en dehors des Jeux, pour vous rappeler que, malgré cette belle parenthèse enchantée, eh bien, le monde continue sa marche, et parfois, ça marche chaotique. Ukraine, par exemple. Je suis sûr que de temps en temps, vous dites, bah, attendez, là, on ne parle plus de la guerre en Ukraine, c'est fini. Bah non, c'est pas terminé. C'est juste qu'on nous en parle beaucoup, beaucoup moins. Et ça me gêne un petit peu, parce qu'on a une guerre qui est quasiment à nos portes. Et voilà, on n'en parle plus. Une pleine page dans Le Monde, hein, où on en est de la guerre en Ukraine. Voilà, je ne vous lis pas un truc sur l'Ukraine tous les jours, mais de temps en temps, lire un article complet, clair, sur ce qui se passe en Ukraine, eh bien, ça me semble une bonne idée. Idem pour le Proche-Orient, vous savez que régulièrement, je vous lis des choses sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je ne veux pas qu'on oublie ce qui se passe dans la bande de Gaza. Donc, Ukraine, les incertitudes d'une guerre d'usure. L'actualité, c'est que ça y est, l'Ukraine a reçu plusieurs F-16, des avions de chasse de fabrication américaine. La question est de savoir si c'est un game changer ou pas. Voilà, on lira ça et surtout, on en est de ce conflit. Ok, on fait un point sur la guerre en Ukraine. Le Hendrik est 47, je l'ai lu cet article hier, il était vraiment bien. Ouais, il était très très bien. Venezuela, idem. Hein, il y a quelques jours, je vous ai dit, c'est hyper chaud ce qui se passe au Venezuela, il y a une élection présidentielle, l'opposition pense avoir gagné, et le président Maduro, manifestement, a truqué les résultats, hein, c'est ce que dit l'opposition, et pas qu'un peu, et dans le monde entier, il y a plein de capitales occidentales et régionales qui ont dit, bon, monsieur Maduro, montrez les preuves de votre victoire, parce qu'il y a un sujet, quoi. Où on en est du Venezuela? C'est pareil, hein, on passe à autre chose, non? Voilà, et bien justement, là on fera un petit point et on donnera la parole à quelqu'un qui dont c'est le pays justement, qui est un écrivain et philosophe qui s'appelle Vicente Uribe Schnell, voilà, et qui est vénézuélien et qui nous dira justement ce qui se passe dans son pays. Voilà. Idem, hein, les Jeux c'est formidable et on va en parler dans un instant, mais la campagne présidentielle américaine, c'est pas inintéressant non plus, en novembre prochain. Voilà, merci Neferim pour le 35e mois à l'instant. Et vous savez que bah, le retrait de Joe Biden, qui a priori devait se présenter à un deuxième mandat, profite au camp démocrate, puisque Kamala Harris, la vice-présidente, hein, qui n'est pas encore la candidate officielle, hein, mais qui devrait l'être dans quelques jours, eh bien, ça a donné une nouvelle dynamique au camp démocrate. Et qu'est-ce qui se passe avec Jalawas là? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vois qu'il y a un débat dans le chat. Donc, cette dynamique, on en parle depuis plusieurs jours. Est-ce que ça suffira à battre Trump? Ça, je n'ai pas la réponse, mais on se penchera sur cette tactique de libération. Vous me dites, Sam, bah, si tu parles de l'Ukraine, des États-Unis et de Venezuela, peut-être un petit mot sur la situation politique en France?
Oui.
Oui, bien sûr, oui. Où on en est de la crise politique issue des législatives et de la dissolution dans l'ordre des législatives? Nulle part. Hein, c'est-à-dire, on n'a toujours pas de gouvernement. Voilà. Mais le Figaro estime que la course pour Matignon met Macron sous pression, qu'il ne pourra pas rester dans cet état, dans ce brouillard indéfiniment. Hein. Et on attend après les Jeux Olympiques, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, peut-être la nomination d'abord d'un Premier ministre, puis la formation d'un gouvernement, lequel on parle notamment d'une personnalité de droite qui pourrait être par exemple Xavier Bertrand, voilà. Bon, après, c'est peut-être un ballon d'essai, une piste pour voir un peu les réactions. Mais cet article du Figaro est assez intéressant sur les pistes, hein, sachant que le président Macron a décidé de ne pas nommer une personnalité de gauche. Pourquoi le président Macron ne veut pas nommer une personnalité de gauche? On a déjà parler de cela sur cette chaîne, mais on en reparlera à cette occasion. Merci. Ouais. Oh non, pas lui. Me dit Fickle Destiny. Oui, Bertrand me dit Espafre. Attends, j'ai raté un message qui avait l'air intéressant. Important, je veux dire. Attends. Et je vois plusieurs réactions. Un message de Storz. Du coup, je remonte dans le chat. Parce que vous êtes plusieurs à réagir et je vous connais. Si vous réagissez comme ça, c'est que le message est important. Où es-tu, mon ami Storz? Toi, j'ai loupé ton message, mais pas les viewers. Je ne sais plus quoi faire, dit Storz. Je vais terriblement mal. On va s'arrêter là-dessus. J'ai le stress horrible d'aller au travail tous les matins. D'abord, tu as bien fait d'en parler. Je pense que ça va parler à plein de gens du chat. Le monde du travail n'est pas toujours un monde d'épanouissement, d'équilibre. Il y a parfois dans le monde du travail, il y a des gens qui sont toxiques. Parfois aussi, il y a des métiers qui ne te conviennent pas. Donc parfois, c'est le métier, parfois c'est le poste, parfois c'est les gens aussi. Parce que de même qu'il y a des gros cons sur Twitter, par exemple, dans l'entreprise, ils sont là aussi. Voilà. Ouais. Et donc, il faut prendre ça en main, il ne faut pas te laisser faire. Mais on me dit que j'ai loupé un autre message avant de la même personne. Alors je remonte. Attends, bah, tu sais quoi, je remonte dans l'historique. Et je vois que les gens se mobilisent pour te répondre, et je trouve ça bien d'ailleurs. Voilà, Storz, je te prends, je vais aller voir ton historique et on va discuter un petit peu. Parce qu'en fait, on est là pour parler de l'actualité, mais parler de vous, ça me semble plus important en vrai. Voilà, j'étais dans l'historique. Ok, j'avais loupé ton message juste avant. Salut, c'est très rare que j'écrive un message de la sorte, mais j'ai besoin de parler d'un problème perso. Je suis en alternance dans une entreprise depuis un an déjà. Au début, tout allait bien, mais tout se dégrade de plus en plus. Je suis en 35 heures, mais on me met une telle pression que je fais beaucoup plus 50 heures environ. En alternance ? Ok. Je n'en suis pas payé plus pour autant. Depuis 2 mois, rien ne va plus. Je tombe de plus en plus en dépression. Je ne peux pas en parler avec mon père, car il remettrait la faute sur moi. Ok, alors t'as bien fait de nous en parler. Et le problème, c'est que mon école connaît très bien mon patron actuel, donc c'est très délicat. Waouh. Encore 2 ans ? Oh là 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 là. Attends. Alors, écoute mon ami, je me permets de t'appeler mon ami. Quand tu utilises les mots dépression, quand tu viens nous parler alors qu'on ne se connaît pas, parce que c'est une forme d'appel à l'aide ou de demande de conseil, si tu le fais, c'est que ça n'est pas anodin et que ça te pèse énormément, quoi. Voilà. Donc, tu as un triple problème, manifestement. Le job, ton papa qui manifestement ne semble pas être une oreille en capacité de t'écouter ou une solution, mais ça on va en discuter, et ton école. Voilà. Si tu commences à ressentir ce qui ressemble à des aspects de la dépression, tu ne vas pas sortir de cet aspect tout seul. Hein. Manifestement, les conditions de ton travail ne vont pas évoluer toutes seules. La solution ne va pas venir de l'extérieur de l'entreprise et ça va être compliqué, toi, simple alternant au sein de l'entreprise, de changer les choses. Voilà. Et pourtant, il faut trouver une solution. Donc, ne subis pas ces événements parce que ça va t'emmener dans une situation dangereuse pour toi. Hein. Donc, plusieurs solutions. N'hésite pas d'abord à aller voir un médecin. Hein, comme plusieurs le recommandent dans le chat. Voilà. Alors, commence. Si tu as la chance d'avoir un bon médecin généraliste, d'abord, dans ton entourage, avant de parler de psy, hein, d'accord ? Si tu as la chance d'avoir un bon médecin généraliste, un bon médecin à qui tu peux te confier, voilà. Va le voir. D'accord ? Parle-lui de ta situation. Voilà. Moi, j'ai été arrêté une seule fois dans ma vie pour des raisons de ce type, dans le cadre d'un travail qui était justement excessif, too much. Et le médecin m'a vu et il m'a arrêté 15 jours, 3 semaines, tout de suite. Voilà, en quelques secondes, parce qu'eux, ils savent, quoi. Donc, si tu as la chance d'avoir un médecin généraliste de qualité en ton entourage, tu vas le voir et tu lui racontes ça. normalement, il va t'accompagner, il va être de bons conseils. Voilà. Il va peut-être, par exemple, te recommander à un psy par ailleurs. Quoi. Première chose, en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, il ne faut pas que tu restes seul. Voilà, les médecins sont très à l'écoute sur ces sujets. Bichard, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Si tu n'as pas la chance d'avoir un bon médecin généraliste de qualité dans ton entourage, il faut que tu en trouves un. Il faut que tu en parles à des proches en qui tu as confiance, des amis, des amis, quelqu'un, des gens dans ta famille qui vont pouvoir t'orienter vers un médecin de qualité. Voilà. Donc c'est la première piste. Ensuite, il y a la piste, il y a ton papa. Alors, je ne connais pas ton histoire familiale. Tu sembles dire que ton papa ne pourra pas entendre ton message car il remettrait la faute sur moi. Alors, est-ce qu'il est partisan d'une éducation très, très, très dure, très, voilà, très, très exigeante, avec peu d'écoute si c'est ton père, normalement, il te connaît, il te connaît très bien. Normalement, il doit pouvoir entendre. Il doit pouvoir entendre ça. Mais c'est à toi de le sentir. Manifestement, tu ne le sens pas. C'est à toi de te dire s'il est en capacité d'entendre, de sentir ta fatigue, ta détresse. Voilà. Bon, ce n'est pas le cas de tous les parents. Mais c'est à toi de le sentir. Normalement, ça devrait être un allié. Si ce n'est pas le cas, bon. L'école devrait être un allié, mais toi-même, tu nous dis que l'école connaît très bien ton patron actuel, donc c'est très délicat. Si tu as de bonnes relations avec ton école, et notamment avec la hiérarchie de ton école, ça peut malgré tout être un allié, même si elle connaît bien l'entreprise. Voilà. Vous êtes plusieurs à le dire, il faut en parler avec l'école. Donc, si tu penses avoir des interlocuteurs à l'école en qui tu peux avoir confiance pour confier un peu là, ta fatigue qui confine un peu à la détresse, là, il ne faut pas hésiter à en parler à l'école. Encore une fois, si c'est un interlocuteur de qualité. Quoi. Voilà. Dans tous les cas, parce que là, c'est difficile. Moi, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas un spécialiste du droit du travail et je ne peux te prêter qu'une oreille attentive. En tout cas, le message important, c'est que tu ne dois pas garder ça pour toi. Déjà, de nous en avoir parlé, c'est essentiel. Déjà, c'est très bien. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Et il faut en parler à ceux en qui tu peux avoir confiance, quoi. Donc, trouve les gens autour de toi qui peuvent t'aider, t'accompagner, t'entendre, t'écouter. Ne reste pas tout seul. Le médecin peut effectivement être un bon allié éventuellement, quoi. Après, parfois, les parents, même, ils veulent notre bien, mais sauf qu'ils sont pas dans notre tête et ils savent pas. Même les parents les plus aimants du monde peuvent être totalement à côté de la plaque dans l'accompagnement de leurs enfants. Le métier de parent est un métier extrêmement difficile. Et vouloir bien faire et faire mal. On a tous vécu ça. Donc, c'est pas forcément une question d'amour, c'est une question que voilà, c'est compliqué. On est des êtres très très différents et même un père et une mère ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête de son enfant. Voilà. Et parfois ils font pas l'effort, parfois ils refusent de comprendre, ça c'est autre chose. Mais parfois même chez les parents aimants, il y a une vraie difficulté de voilà. Moi j'ai eu des parents très aimants et ils savaient pas, ils comprenaient pas toujours ce que je faisais, quoi. Donc ils ont toujours été là, mais parfois ils ont raté des mini trucs parce qu'en fait j'ai pas su leur expliquer, j'arrivais pas à leur faire comprendre ce que je vivais, quoi. Donc, et pourtant, ils étaient très, très aimants. Donc, voilà. Donc, ce papa qui, a priori, ne sent pas en capacité de t'entendre, hein, peut-être à toi aussi de trouver les mots. Voilà. Un conseil de Natsu Draganir, demande de l'aide à la médecine du travail, comme ça, ta famille ne sera pas informée directement à ton insu. Ouais. Ça aussi, c'est une piste intéressante. Voilà. Ouais, j'espère qu'on a un peu répondu à tes questions et que ça t'a un peu aidé. En tout cas, ce stream est toujours ouvert à ce type d'échange. N'hésite pas. Ok, bon, ton dernier message me fait plaisir. Bon, maintenant on va arrêter parce que tu vas me faire pleurer. Bon, reviens quand tu veux. Mais manifestement, la solution est quand même dans le fait de changer l'alternance. Hein. Enfin, voilà. Hein? Mais voilà, comme le dit Cyril dans le chat à l'instant, ne laisse pas traîner ça, quoi. Ok, bon. GG à toi de nous avoir parlé, GG à tous ceux dans le chat qui ont réagi positivement en essayant de... Je pense que ce que pourra faire notre ami Worm, c'est revoir dans le chat, dans ce live, après, en replay, toutes les réponses qui lui ont été apportées. Peut-être que ça peut l'aider un petit peu, quoi. En tout cas, si à un moment, ça ne va pas du tout, tu reviens ici, tu nous en parles. Ouh. Et merci, Camille, pour l'abonnement offert à Storvs, justement. Allez, donc... On parlera d'actualité internationale, je reviens au sommaire, on parlera de l'actualité politique en France. Là, on a fait une parenthèse qui me semble importante. Et à propos de parenthèse, justement, je ne le fais pas exprès, mais il y a plusieurs journaux en ce moment qui saluent cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la une du Monde, hein. Succès sportif et engouement populaire, la parenthèse enchantée de Paris 2024. Voilà, le monde qui se félicite globalement de la tenue de ces Jeux, de toutes ces médailles, bien sûr, et qui se demande est-ce que ce sera une simple parenthèse, hein, et, ou est-ce qu'on va en garder quelque chose d'intéressant, hein. Salut, Capitaine Pesto, merci. Hein, donc là, on vit une séquence qui est appréciée. Hier, j'étais en train de dire, bon, les gars, c'est bien les Jeux, mais on ne doit pas oublier la marche du monde, on ne doit pas oublier qu'il y a plein de soucis. Et certains dans le chat me disaient, attends, laisse-nous profiter, ça dure 15 jours. Pour les Jeux Olympiques, après il y aura les Jeux Paralympiques, laisse-nous profiter, laisse-nous oublier un petit peu le reste de l'actualité, voilà, c'est pour une fois, ça fait du bien, quoi. Et donc la question que se pose le monde, c'est est-ce qu'il va rester quelque chose de positif de cette belle séquence, voilà. Donc on lira ça dans Le Monde, Le Parisien est un petit peu sur la même idée, et puis on se penche bien sûr sur les derniers résultats avec cette médaille d'or renversant du Suédois Armand Duplantis qui a battu un nouveau record du monde, truc de fou, quoi, voilà. On se penchera un petit peu sur les résultats des uns et des autres. On va un petit mot de la cérémonie de clôture, parce que c'est à la fin de la semaine, hein, normalement c'est dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Merci Magayuga pour le Prime. Et justement, on a des infos sur la cérémonie de clôture. A priori, il y aura, comment il s'appelle l'acteur américain là, Tom Cruise dedans, voilà. Et puis il y aura des groupes français pour la musique type Air et Phoenix, voilà, la French Touch, voilà. Donc, ça a l'air pas mal, en vrai. Et puis, on se penchera sur les derniers résultats avec la médaille d'argent pour les Français en basket 3-3. Une belle médaille d'argent aussi, je crois, pour une Française qui s'appelle Andel Hugues en... Comment ça s'appelle cette nouvelle discipline, là ? En kayak cross, un peu spectaculaire, là. Voilà. Et puis, évidemment, on se penchera sur cette barre à 6,25 m. Incroyable, voilà. De cette espèce d'oiseau, là, comme en apesanteur, c'est incroyable. Regardez les visages derrière lui, dans le public, hein, du Suédois Armand Duplantis, qui non seulement a emporté la médaille d'or olympique, mais a battu un nouveau record du monde, en l'occurrence son record. Merci Culbutoquet pour le soutien. Voilà. Et puis on se penchera aussi sur les équipes de France en sport co. Hein, une demi-finale pour les footballeurs français. Hein, c'était quoi ça ? Non, une finale même. Non, une finale ! Une finale, vendredi 18h, pour les sportifs français, pour les footballeurs français, contre l'Espagne. Ouais. Donc là, c'était un quart de finale. Donc, demi-finale également à venir pour les volleyeurs, hein, français. Voilà. Y a un quart de finale aujourd'hui en basket, voilà, l'équipe de France de basket, qui a un peu de mal. Voilà, qui affronte l'ogre canadien, c'est aujourd'hui à 18h, voilà, malgré nos talents, notamment Victor Wembanyama, pour ne citer que lui, bah, c'est un peu compliqué, voilà, il y a des tensions dans l'équipe avec l'entraîneur notamment, voilà. Et donc on se penchera un petit peu sur les sports collectifs, voilà, pour cette revue de presse. Il y a de l'actu internationale, il y a de l'actu française, il y a de l'actu JO, on va parler de tout ça, mais d'abord je vais faire pipi, parce que j'ai une vie passionnante. Bonjour monsieur, faut m'appeler ça, moi, tu peux même m'appeler The Mister CH. Monsieur. C'est mignon parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit un DM à un célèbre champion olympique. Voilà. J'ai tenté ma chance, je l'ai invité sur Twitch. Et il est très jeune, ça pourrait être mon enfant, mais je lui dis bonjour monsieur. Tellement je suis impressionné. Je ne dis pas à qui j'ai écrit. Je ne dis pas. Bon, je ne pense pas qu'il ait le temps de me répondre. Mais ça se tente. Waouh! À un moment, il faut arrêter de s'informer sur Facebook et sur Twitter, les gars. Je ne cite pas la personne dans le chat qui a écrit « Est-ce que les journaux français parlent de ce qui se passe en Grande-Bretagne ?» On en a parlé hier. Donc les émeutes de l'extrême droite, c'est de ça dont tu veux parler. Les gens en ont marre des musulmans car ils violent et ils tuent les enfants. Donc effectivement, il y a eu un drame avec des enfants en Grande-Bretagne récemment. Et en fait, l'agresseur qui a 17 ans n'est pas musulman. Ça n'est pas un immigré. Il est né en Grande-Bretagne, sur le sol britannique. Voilà. Donc en fait, tu as tout faux. Tout dans ton message est faux. À un moment, il faut s'informer auprès de sources. Il faut bosser, les gars. Vous pouvez pas venir comme ça avec des débileries que vous avez lues sur Internet, quoi. Il faut, ça demande un effort, vous savez, l'actualité, en fait. Ça demande un effort. Hein ? C'est pas parce que tonton José, un peu bourré, a tweeté à 2h du matin sur un truc que c'est une info, les gars. Hein ? Ah là 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 là, c'est pas possible, ça, les gars. C'est pas possible. Hein, ça se en deux clics sur Internet, vous vérifiez ça. Hein. Après, il faut identifier des sources d'infos un peu fiables, quoi. Mais c'est un travail, quoi. Ah là là, là, putain, c'est chaud, quoi. Donc va creuser un peu cette histoire, puis reviens, quoi. Voilà. Merci Faire476 pour le Prime. Voilà. Mais oui, on en a parlé, mais pas de ça, de des vraies infos, quoi. Ou alors, il faut ajouter à la fin, source Toto José. Merci Supertouf. Et là, on sait que c'est de la merde. Hein ? Oh là là, ça fait... Ah. Bon. Merde alors. Pouh. Source, t'inquiète, frère, Toto José, quoi. Hein ? Bon, les amis, je vais faire un petit pipi, mini pipi, mais genre... 10 secondes, ok. Je vous mets même pas de pause musicale, rien du tout. Et c'est parti pour la revue de presse, d'accord. Avec des vraies infos, quoi. Voilà. Et des journalistes qui s'interrogent, qui essayent de comprendre, ouais, qui amalgament pas, qui vont pas. Voilà. Je vous emmène. Donc vous avez envie de faire pipi ? Bon, chacun ses toilettes. Hein. Voilà. Allez, bougez pas. J'en reviens dans 10 secondes. Ouais, 10 secondes, c'est hyper rapide. Hein, j'arrive. J'ai une petite prostate. Je me coule un... Je suis de retour, c'est bon, faut arrêter le décompte. Je me coule un DK, j'arrive. Excusez-moi. Je suis désolé, mais parfois il y a les messages qui donnent soif. Là, le dernier message qu'on a lu, il m'a donné soif, quoi. Hein ? Voilà. Merci Faire476. Allez, let's go. Ouais, un DK, parce que je suis assez caféiné. On commence par l'Ukraine, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point sur la guerre en Ukraine. Let's go. Parce que ce conflit, il est toujours là, quasiment à nos portes. Ukraine, les incertitudes d'une guerre d'usure. GG au journal Le Monde. Voilà. qui nous fait une espèce de photographie à l'instant T, là, résumé de ce qui se passe en Ukraine. C'est hyper bien fait. Merci, moi, c'est Sugar Julien. Merci pour l'abonnement offert à KMI. Kiev, l'Ukraine, a donc confirmé dimanche avoir reçu les premiers avions de combat F-16, les fameux avions de combat de fabrication américaine, promis il y a un an par ses alliés. Bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà plus d'un an que l'Ukraine les attendait. Dimanche 4 août, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a donc confirmé la présence sur le sol ukrainien des premiers F-16, ces avions de combat de fabrication américaine promis par plusieurs pays alliés depuis l'été 2023. Il n'a pas précisé leur nombre, mais il l'a jugé suffisant. De fait, malgré la portée du symbole, beaucoup d'experts considèrent aujourd'hui très incertaine la capacité des F-16 à bouleverser la longue guerre d'usure dans laquelle sont entrés Russes et Ukrainiens. Tant d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Est-ce que les F-16 peuvent changer le cours de la guerre? A priori, les experts disent ce ne sera pas suffisant. Si les F-16 peuvent par exemple permettre à Kiev de frapper les forces russes au sol plus loin à l'arrière des 900 km de la ligne de front, il n'est pas garanti qu'ils soient vite en mesure de neutraliser les avions de Moscou qui ne cessent depuis des mois maintenant de larguer des bombes planantes dévastatrices sur l'Ukraine. Les alliés ont promis la livraison de 90 appareils, mais celle-ci doit s'étaler sur plusieurs années. Donc F-16 Game Changer, a priori non. Les F-16 sont un atout important, mais cela ne change pas la guerre en soi, a commenté le 30 juillet dans le Wall Street Journal le ministre des Affaires étrangères norvégien. On n'est pas sorti de l'impasse militaire tactique, estimait également au début juillet le directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui était justement de retour d'un voyage à Kiev. Tu penses qu'un jour ils vont pouvoir accepter de faire des compromis des deux côtés pour arrêter cette guerre, demande Mystérieuse. C'est une question qu'on se pose tous, Mystérieuse. Un peu plus d'un an après l'échec de la fameuse contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 pour tenter de reprendre les territoires annexés par Moscou en février 2022, la réalité du rapport de force entre Russes et Ukrainiens se retrouve de fait de plus en plus entourée d'un brouillard épais. Vous rappelez l'offensive russe, l'invasion russe, voilà, la contre-offensive ukrainienne dans laquelle l'Ukraine avait placé beaucoup d'espoir, qui n'a pas été si productive qu'espérée, et puis la Russie qui a repris un petit peu de terrain depuis, et puis un front qui ne bouge plus beaucoup, hein, avec beaucoup de fortifications de part et d'autre. Alors, quel est exactement l'état des forces en présence? On ne sait pas bien. On manque de chiffres précis. Les deux parties ont des stratégies de communication. On ne peut croire ni l'un ni l'autre, résume Joris Van Bladel, qui est un spécialiste des affaires militaires russes. Il y a quelques mois, j'étais très pessimiste pour les Ukrainiens, mais beaucoup de choses dépendent aussi de l'issue des élections américaines. La seule chose qui est sûre, c'est que nous sommes dans une guerre d'attrition où la connaissance de l'adversaire compte moins que la force physique. Et c'est celui qui peut tenir le plus longtemps qui gagne, dit-il. Alors, attrition, une guerre d'attrition, moi, je vous avoue que je ne sais pas bien ce que veut dire le terme attrition. Et dans ce cas, on ne fait pas le savant. On va vérifier. Attrition. Ah, usure, frottement. Alors ça, je l'avais pas. Une guerre d'usure. Ah, ok. Une guerre d'attrition. Une guerre d'usure. Une guerre basée sur les ressources. Ok. Ah. Usure par frottement, précisément, étymologiquement. Ça vient de... Ok. Très intéressant. Bon, je me voile un peu plus avant maintenant. Dans cette guerre d'endurance, donc, les chiffres concernant les destructions de matériel sont particulièrement éloquents. À en croire le site Oryx, qui comptabilise les pertes de chaque camp, considéré comme la source la plus fiable sur le sujet, les Russes avaient perdu au 10 juin entre 1,5 et 5 fois plus de chars, de blindés, de systèmes d'artillerie que les Ukrainiens. Bon, en même temps, ils ont aussi, les Russes, plus de matériel, vous le savez. Merci Farker pour le Prime. Merci beaucoup. Dans cette course à l'attrition, où il y a une forme de prime à la défense, donc aux Ukrainiens, les forces de Kiev ont malgré tout reperdu ces derniers mois le peu de territoire qu'elles avaient réussi à reprendre aux Russes lors de la contre-offensive de l'été 2023. Soit, un peu la luminosité, l'équivalent de 500 km². À partir d'avril, Moscou a accentué la pression en divers points du front et a fini par récupérer environ 750 km². Les risques que le front s'écroule d'un côté ou de l'autre, en faveur des Russes ou des Ukrainiens, semble limité aux yeux des experts, donc qu'un camp brutalement l'emporte sur l'autre, notamment en raison de la triple ligne de fortification que Kiev a commencé à construire en mars sur le modèle de ce que les Russes ont fait de leur côté. Hein, vous savez que les Ukrainiens se sont cassés les dents militairement sur les lignes de défense infranchissables des Russes. Et bon, bah, les Ukrainiens ont fait de même de leur côté, quoi. Mais les Ukrainiens savent que leurs forces diminuent et que l'effort est de plus en plus difficile. Les dés ne sont pas en leur faveur, a jugé à la mi-juillet Vincent Tourbet, qui est doctorant, qui est un chercheur. L'un des secrets les mieux gardés depuis le début de cette guerre est toujours le nombre de morts et de blessés. Il y a une guerre de communication là-dessus, hein. On ne sait pas. On a des estimations. Le 24 juillet, le chef de l'armée ukrainienne a refusé de répondre à cette question, se retranchant derrière le seul bilan admis publiquement par le président Zelensky en février. 31 000 morts côté ukrainien. Ouais, c'est sûrement beaucoup plus. Côté russe, le flou est encore plus grand. Moscou n'a admis que 5 837 morts. Alors que du côté des médias d'opposition, on estime qu'on est plutôt du côté de 120 000 morts. 5 000 d'un côté, 120 000 de l'autre. Après avoir longtemps tué leurs difficultés, les Ukrainiens ont adopté en mars une loi très impopulaire abaissant l'âge obligatoire de la mobilisation. Hein, on est passé de 27 à 25 ans. Avec ce texte, les autorités ukrainiennes ont été obligées de reprendre à leur compte une méthode adoptée par la Russie depuis l'été 2022 qui a dénoncé jusqu'à leur recrutement dans les prisons en échange d'une remise de peine. Ce que faisaient les Russes et maintenant les Ukrainiens le font également. Autre inconnu, beaucoup d'inconnus, le niveau d'engagement à long terme, les Occidentaux aux côtés de l'Ukraine, depuis le début de la guerre, les États-Unis, l'Europe fournissent, vous le savez, des équipements, des munitions, des conseils, mais souvent en retard, souvent avec beaucoup de retard par rapport aux nécessités, ou alors en nombre insuffisant pour être un game changer. Les restrictions imposées par les Occidentaux pour l'usage de leurs armes, par ailleurs, à longue portée freinent aussi les Ukrainiens, puisque Kiev a seulement le droit d'après ses dons d'armes, de les employer à des fins défensives et pas pour frapper le territoire russe, hein, ou alors seulement de manière très encadrée. Voilà. La plupart des sites à partir desquels les Russes opèrent, notamment pour les aéroports militaires, les aérodromes militaires pour leurs bombardiers, sont encore hors de portée. C'est le cas des bases aériennes d'où décollent les avions qui larguent les fameuses bombes planantes, pratiquement impossibles à intercepter. J'arrive à la fin de l'article, mais je trouve que cet article est très complet. Merci Vegalex, merci Minosikar, merci à tous les deux. Malgré ses limites, la Russie ne s'en sort pas sans de lourds dommages, puisque pour contourner les contraintes qui leur sont imposées, les Ukrainiens utilisent de plus en plus des drones de toute taille qu'ils fabriquent de tout, par leurs soins et qui vont frapper la Russie sur son sol. Pour tenter de faire face, où ça flotte, hein, où ça flotte. Pour tenter de faire face, Moscou a choisi de complètement réorienter son économie vers son appareil de défense, hein, une économie qui tourne à 100% vers l'armée, un effort industriel aux dépens évidemment d'autres investissements. Alors quel état va se retrouver la Russie à l'issue de ce conflit, quoi. Le problème fondamental pour les Occidentaux, la chute du papier, je la trouve très intéressante, le problème fondamental pour les Occidentaux, c'est que comme la Russie est un état doté de l'arme nucléaire, la gestion de l'escalade demeure un exercice particulièrement risqué. Une Russie faible est aussi dangereuse qu'une Russie trop forte. Même chose pour les Ukrainiens, nous ne devons les aider, les armer, que jusqu'à une certaine limite, disent les Occidentaux. Et c'est presque notre dilemme, nous travaillons avec un dilemme stratégique permanent. C'est fou, hein ? Je trouve que cet article du Monde est très bien fait. Voilà. Sur là où on en est, c'est-à-dire toujours dans un immense flou, en fait. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat disait, est-ce qu'à un moment, les deux camps vont se mettre autour d'une table pour essayer de trouver une solution, voilà. Pour notamment que cesse le coût humain et économique gigantesque de cette guerre pour les deux pays. Ça, je ne sais pas. T'inquiète, Storz, bien sûr que cette histoire ne reste que dans le chat. Bien sûr que cette histoire ne reste que dans le chat. Ne t'inquiète pas. Ne stresse pas avec ça. Ne te rajoute pas du stress avec ça. Tout va bien. Tu es avec des amis ici. Je ne comprends même pas pourquoi on met des limites à l'Ukraine, dit Nico Manga. Bah, l'article vient de répondre pour ne pas se prendre une bombe atomique sur la gueule. Je remonte le chat parce que je ne vous ai pas lu sur la Russie et l'Ukraine. Il y a une forte probabilité de la réduction de l'aide américaine à l'Ukraine en cas de passage de Trump aux élections. Oui, tilde, c'est ce qui se dit effectivement. Allez, je lis quelques messages sur la Russie et on enchaîne et on parlera de le Venezuela aussi. C'est important de faire un point sur ce qui se passe après la présidentielle au Venezuela. Ça peut vous sembler loin, mais c'est vraiment très important. C'est les millions de votes des Vénézuéliens qui ont été ignorés par le pouvoir, quoi. Ouais. Ah, il y a des preuves sur ce point? Oui, il y a des preuves. Ouais, vous allez voir, on va en parler. Merci Ezox pour le message. Le PSG, on peut parler foot? Non, on va pas parler du PSG par contre. Non, ça va, on est sur les JO là. Le PSG, ils vont attendre la fin des jeux. Hein. Merci Akashi Weiss, j'ai rien contre le PSG, mais. Hein, pour le Prime. Claire Toaster, avez-vous parlé de ce qui se passe en Angleterre? Oui, on en a déjà parlé en début de semaine, hier, et on en reparlera, bien sûr. Alors, certains m'interrogent sur ce qui se passe sur les bourses. Enfin, je préfère dire les places financières, parce que faut pas que vous mépreniez sur la thématique quand je parle de bourse. Donc, effectivement, les places financières mondial ou un petit coup de chaud là, hein, et voilà, je sais pas où on est le CAC 40 ce matin, on va aller voir, mais que ce soit en Asie ou aux États-Unis ou en Europe, donc il y a pas mal d'interrogations sur la politique monétaire de la Fed notamment, voilà. Donc moi j'ai lu pas mal d'articles ce matin, c'est même la une des Échos. Je vous avoue que connaissant ce genre d'actualité, j'ai fait le choix d'attendre un jour ou deux pour voir ce qui se passait, pour voir si c'était une tendance lourde. Là, voilà, j'ai pas tort. Regardez, par exemple, le CAC 40 en ce moment est en perte de 0,66%. Le CAC a un petit peu perdu cet été, mais on peut pas dire que ce soit un crack, quoi. Hein. Voilà. Donc, quand tu vois le CAC à moins 0,66, je me dis, on va attendre un petit peu, on va voir si cette petite panique devient un vent de panique, si la baisse se confirme ou pas du tout, quoi. Voilà. Donc, parfois, il faut savoir attendre. Pour pas, voilà, on me dit que le Nikkei a remonté au Japon, que le Bitcoin est reparti, voilà, exactement. Donc, je pense qu'il faut être, ce matin, quand tu lis les journaux, tu étais en mode, on va tous mourir. Bon, connaissant un petit peu ce genre d'actualité, moi, je pense que parfois, il faut savoir attendre quelques jours pour pas inquiéter les gens pour rien, quoi. Parce que la bourse, ça peut sembler loin de nous, mais parfois, ça, dans l'histoire économique de nos pays, vous le savez, ça s'est avéré à plusieurs reprises, les mouvements boursiers et notamment les crises boursières ont après des impacts sur l'économie réelle, hein, sur la vie des entreprises, sur leur financement, sur les emplois. Donc c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Ce n'est pas l'indice boursier, bien sûr. C'est ses conséquences sur l'économie réelle. Donc je vais attendre quelques jours pour voir ce qui se passe. Voilà. Comme le dit Absis, c'est juste un claquage de bourse. Ça arrive. On parle toujours de finance, là. Merci Akashi Weiss encore pour le prime. Claquage de bourse. C'est toujours... Tu parlais toujours de... Non, parce que sinon, ça doit... Ouh. Oui. Oh, mon Dieu. Bon. Allez, on va aller au Venezuela maintenant. Claquage de bourse. Ça pique, ça pique. Alors. Pardon. Venezuela. On a parlé en début de semaine. Mais on va en reparler. Voilà. Parce que ça n'est pas fini, cette histoire. Venezuela, pourquoi la fraude électorale de Maduro, qui est donc le président sortant, est incontestable, hein. Certains demandaient, mais est-ce qu'il y a des preuves? La parole dans le Figaro, un Vénézuélien, il est écrivain, il est philosophe et il s'appelle Vicente Uribe Schnell. Comment comprendre ce qui s'est passé chez moi, dit-il, au Venezuela, le jour des élections présidentielles du 28 juillet 2024? Une fraude électorale, voilà ce qui s'est passé. une fraude électorale. L'opposition au gouvernement de Nicolas Maduro, réunie autour de Maria Corina Machado et Edmundo González Uratis, a réussi l'incroyable exploit de... Qui m'écrit ? Ah, c'est les audiences de questions pour un champion. De fédérer la grande majorité des Vénézuéliens autour d'un projet de transition pacifique après 25 ans de gouvernement soi-disant socialiste, dit ce Vénézuélien. Leur campagne électorale a surmonté les énormes obstacles mis en place par Maduro et les siens pour essayer de stopper illégalement la percée de l'opposition, interdiction de se présenter opposée à la candidate, qui était pourtant largement désignée par l'opposition, d'où le diptyque Machado González, avec González sur le bureau de vote, parce qu'en fait, elle a été interdite de se présenter déjà. Première chose, menaces multiples et sanctions à tous ceux qui déclarent leur soutien à l'opposition. Enfin, voilà la démocratie, quoi. Emprisonnement de dirigeants de l'opposition et de personnalités défavorables au régime. Malgré tout cela, malgré la fermeture des hôtels, des restaurants coupables d'avoir accueilli les partisans de Machado et González, malgré les attaques directes contre ses dirigeants, malgré les insultes préférées contre elle depuis les médias contrôlés par l'État, l'opposition ne s'est pas laissée intimider et a mené à bien une campagne électorale remarquable, obtenant les deux tiers des voix le 28 juillet. Comment sait donc l'opposition a gagné, dit ce Vénézuélien. Parce qu'au Venezuela, eh bien, les élections se font de manière digitale, avec des machines qui transmettent le résultat au Centre National Électoral, le CNE. Système complexe, impossible à frauder, dit-il, car il présente trois étapes de décomptage qui doivent toutes coïncider. 1. L'électeur prouve son identité grâce à un système biométrique. Ouais, numérique, bien sûr, vous avez compris, c'est écrit digital, Le monsieur vénézuélien, il dit digital, je vais pas le réécrire en direct. 1. L'électeur prouve son identité grâce à un système biométrique. 2. Il enregistre son choix sur la machine et celle-ci l'imprime sous la forme d'un bulletin de vote qui l'introduit dans l'urne. La machine envoie électroniquement les résultats du bureau de vote à intervalles réguliers au CNE et à la fin de la journée, plutôt bien fait leur truc, chaque machine de vote imprime un procès-verbal de l'information envoyée au CNE qui est contrôlée et signée par les témoins des partis présents dans le bureau de vote. De cette manière, chaque vote doit coïncider avec les résultats des machines publiées par le CNE. C'est carré leur truc. Dans un troisième temps, les actas, c'est le nom de ces procès-verbaux, imprimés sont comparés aux bulletins introduits dans les urnes. Voilà. L'opposition a pu récupérer 80% de ces procès-verbaux imprimé par les machines, qu'elle a publié sur un site internet. Le site internet a aussitôt été fermé par le gouvernement. Et de son côté, le CNE, donc l'organe public gouvernemental, qu'est-ce qu'il a publié comme résultat? Rien. Juste, le président Nicolas Maduro a affirmé qu'il avait gagné avec 52%. Voilà. Dans une séquence digne d'un sketch des Monty Python, les chiffres publiés par le CNE totalisaient 109% des suffrages. Ces dictateurs, ils sont cons quand même. Donc voilà, les chiffres portaient sur 109% des suffrages. Ils sont cons quand même. Ce qui est une belle participation. Voilà. La loi électorale au Venezuela est claire. Le CNE dispose de 48 heures pour publier les résultats détaillés d'une élection. Ce délai est largement dépassé ici. Voilà, et donc du coup, l'opposition et plusieurs gouvernements, dont la France, demandent à voir les résultats, demandent au CNE, on ne pourrait pas avoir les résultats quand même. Hein, voilà. La réponse de Maduro à tout ça a été quoi? De recourir à la violence, à la répression pour faire taire les contestations. Les groupes paramilitaires à son compte, des hommes cagoulés à moto, tirent à balles réelles pour disperser les manifestations spontanées. La police et les militaires ont déclenché une vague de détentions illégales qui font froid dans le dos. Plus récemment, Maduro a déclaré vouloir construire deux prisons de haute sécurité qui contestent, pour emprisonner les milliers de terroristes, je cite, qui contestent les résultats, allant jusqu'à affirmer vouloir les rééduquer par le travail forcé. Parce qu'évidemment, les gens de l'opposition qui contestent les résultats sont des terroristes, bien sûr. Et il faut les mettre en prison. Et même des travaux forcés tant qu'à faire. Voilà. Alors qu'il est, Machado et González, donc les deux candidats à la présidentielle, le ticket, là, se cachent au Venezuela. Leurs vies sont en danger, mais ils appellent la population à manifester pacifiquement. Les Vénézuéliens, quant à eux, subissent la violence d'un État qui refuse de se rendre à l'évidence. Le message qu'ils adressent à leurs dirigeants est limpide. Nous ne voulons plus de vous. Nous nous battrons pour notre liberté. 2024, Venezuela, t'as un gars au pouvoir. Il a perdu les élections. Large, large, large. Et le mec, il s'assoit là-dessus et il dit « Ben non, c'est moi qui ai gagné. » Voilà. D'ailleurs, il y a une très forte participation. 109%. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Bon, on en a parlé en début de semaine, mais je voulais qu'on n'oublie pas ce truc, qu'on n'oublie pas les Vénézuéliens, en fait, par rapport à ça, quoi. Qu'on continue à en parler. C'est pas nous qui allons changer le truc, mais au moins que le monde ne se teste pas là-dessus, quoi. L'Union européenne n'a pas reconnu les élections. Ouais, je crois que l'Union européenne n'a pas reconnu les élections, tu as raison. Le monde se taira car ils ont du pétrole et on ne peut plus l'acheter à la Russie. Là, le monde ne se tait pas. Tu as plein de capitales occidentales qui ont demandé la publication des résultats, des vrais résultats. Hier, il a dit que c'était à cause d'un complot sioniste, Maduro. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Eh bah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr! Terroristes, complotionnistes, let's go, let's go. Merci Diego de Wavre pour le 6e mois. Merci Nebgis pour le 13e mois. Le monde se tait, la preuve, on lit le Figaro. Excellent, excellent. Excellent! Voilà. Bon, on finit ce petit tour de la planète. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé du Venezuela, par les États-Unis. Bon, ça fait plusieurs jours que je vous lis que la campagne présidentielle américaine, le scrutin aura lieu en novembre prochain, est en quelque sorte relancée dans le combat des petits vieux Trump contre Biden. Trump avait un avantage, c'est que lui, on comprenait à peu près ce qu'il disait, quoi. Ouais, il avait une espèce de vigueur pour son âge qui faisait que ça le faisait face à Joe Biden, qui était âgé que de plus de 3 ans, hein, mais qui n'était pas dans une forme olympique. Pour rester dans l'actualité sportive, ni physique ni intellectuelle, pauvre Joe. Donc Joe Biden, sous la pression du camp démocrate, a fini ce qui est jamais vu dans l'histoire américaine, par se retirer de la course à la présidentielle pour tenter un deuxième mandat. Et c'est donc sa vice-présidente qui entend briguer l'investiture démocrate dans quelques jours. Officiellement, ça n'est pas la candidate démocrate à ce jour, hein, ça n'est pas choisi encore, mais bon, il y a assez peu de suspense. Kamala Harris. Départ gagnant, elle réussit plutôt son entrée en campagne. Les journaux le disent depuis plusieurs jours. 2 semaines après le retrait de Joe Biden, la candidate démocrate qui doit désigner son colistier commence à sérieusement inquiéter le camp républicain. Voilà. Merci pour cette pluie de subs. Merci Neptros, merci Cristiano. Ouais. Kamala Harris, le nouveau souffle des démocrates depuis le retrait de Biden à la présidentielle, du 5 novembre donc. Hein. L'enthousiasme se renforce chez les démocrates autour de la candidate qui doit désigner son colistier quand aujourd'hui, ce mardi. Et c'est important. Tu te bases sur quoi quand tu dis pas une forme intellectuelle ? Biden ? Doc Jordan, c'est une vraie question ou pas ? Tu le trouvais intellectuellement en forme ? Joe ? Tu as vu le débat avec Trump ou pas ? Non ? Si, peut-être. Il n'était pas à son prime quand même. Je conçois que tu puisses être un soutien de Joe Biden, qui est sympathique par ailleurs. Mais en fait, c'était une catastrophe, quoi. C'était... voilà. Ne confonds pas avec mon Joe à moi, hein, qui lui est très en forme. Hein. Non, et puis bon, les BD scènes, quand il monte dans son avion, tout ça, c'est tout, voilà, il était fatigué. Voilà. C'est son propre camp, hein, qui lui a demandé de se retirer. Ouais, et puis dans le débat, c'était vraiment compliqué, quoi. T'es un peu à côté de la plaque, quoi. Voilà. Donc, bon début de campagne de Kamala Harris. Les stratèges du parti l'étiquettent déjà comme le Kamala Momentum, amalgame de Kamala et de Momentum, l'impulsion engagée depuis le coup de théâtre du retrait de Biden, et bientôt relancée par l'annonce du choix du vice-président de la candidate. Prévu aujourd'hui, ça c'est très important, lors de son meeting dans l'État des sites de Pennsylvanie, en 2 semaines, 170 000 nouveaux bénévoles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ont déjà été engagés, 200 millions de dollars de fonds de campagne, pour un total de 310 millions en juillet, ont été levés dans le pays, soit plus du double du trésor de guerre récolté par Trump pendant la même période. Quand vous savez le coût d'une campagne électorale aux États-Unis, moi par exemple, qui veux me présenter à la prochaine présidentielle en France, moi, je suis content de ne pas être américain, parce que c'est quand même une dinguerie, eh ben, les montants collectés sont très importants. Les sondages marquent un tournant abrupt. Alors que Joe Biden avait perdu 5 points au niveau national face aux républicains depuis son débat raté, sa successeure a stoppé l'hémorragie. Elle se targue aujourd'hui d'un point d'avance selon les enquêtes de CBS et de YouGov. Voilà. Donc au niveau du sondage, ça s'est un petit peu resserré. Voilà. Donc nouvelle donne politique, ce qui ne veut pas dire que Kamala Harris va l'emporter. Hein, une élection, ça se joue dans les urnes. Les dirigeants démocrates spéculent maintenant sur la longévité de cette lune de miel pour leur candidate. Il faudra que tu fasses 5%, sinon tu vas finir comme Pécresse et me demander de l'argent. Ah bah oui. Ah bah si je rentre pas dans mes frais de campagne, je vais lancer une cagnotte. Hein. Ce sera pas le The Event, ce sera le Sam Event. Eh oui. Ah bah si je me plante à la présidentielle, si j'ai pas les 5%, ça va finir en subaton. Hein. Une semaine de stream pour rembourser la banque. Bah oui. Bah faudra être là. Hein. Ouais. Le ZAM Event. On investira le capital, t'inquiète. Non, restons dans les trucs démocratiques quand même. Ouais. Il faut déjà 500 signatures. Oh, ça devrait le faire. Je vais promettre à tous les élus, tous les maires, les 500 signatures de venir jouer à question pour un champion. Le truc n'a aucun sens. Mais j'y songe, hein, j'y songe. Hein. Petite campagne présidentielle express sur les réseaux sociaux, là. Une campagne essentiellement sur TikTok. Hein. Donc, les Républicains, eux, commencent à s'inquiéter. La candidate assez peu connue, malgré quatre années comme vice-présidente, doit au plus vite asseoir sa légitimité pour répondre à l'offensive républicaine qui est imminente. Évidemment, du côté du camp Trump et de son équipe de campagne, on est en train de réfléchir à la meilleure manière de s'en prendre à Kamala Harris, puisque évidemment les arguments, notamment sur la santé physique et intellectuelle de Joe Biden, bah, ça ne marche plus là, puisqu'elle est beaucoup plus jeune. Donc là, ils sont un petit peu embêtés, quoi. Ils sont pris un peu à contre-pied. Et j'aime bien la fin de cet article que je trouve assez intéressante. Le grand Ken, j'ai l'impression qu'on ne parle que de Kamala Harris. Elle fait les unes de tous les quotidiens en figure d'héroïne de Messi face à une menace. Il y a quelque chose de dérangeant dans ce traitement médiatique. Oh bon, on parle pas mal de Trump aussi, hein, t'inquiète. Quand il s'est fait déchirer l'oreille là, par une balle de fusil, on a parlé que de ça pendant plusieurs jours quand même. On ne parlait pas de Kamala Harris. Tu vois, je reprends ton commentaire et je mets Trump dedans, regarde. Au moment où toutes les unes des journaux étaient sur Trump qui s'était fait tirer dessus, tu aurais pu écrire. J'ai l'impression qu'on ne parle que de Trump. Il fait les unes de tous les quotidiens en figure d'héros, de Messi face à une menace. Il y a quelque chose de dérangeant dans ce traitement médiatique. Tu vois, ça marche aussi. C'est juste que chacun sa petite séquence, quoi. Faut regarder ça sur la durée. Bah, il y a Blaise qui dit, comment ça il s'est fait tirer dessus ? Bah oui, quand même. Les gars. Donc, lisons la fin de cet article. Kamala Harris ne se révélera réellement que durant la tournée frénétique de meeting qui suivra l'annonce ce mardi en Pennsylvanie du nom de son colistier. Ce duo, ce ticket, donnera pour la première fois une image tangible de l'après-Biden. Tous des hommes, en tout cas, donc ce ne sera pas un ticket 100% féminin, aptes à réduire l'appréhension possible de l'électorat devant une perspective historique. Celle de l'entrée d'une femme à la peau sombre dans le bureau ovale, le choix final pourra déterminer la victoire ou la défaite de Kamala Harris le 5 novembre. Libé nous dit que le choix du ticket, en fait, donc le ticket, c'est, vous savez, c'est voilà, si je gagne, voici mon vice-président, ma vice-présidente, c'est ça le ticket, hein, pour une élection présidentielle aux États-Unis. Le choix de ce ticket va être très important. Par exemple, on dit que le choix du ticket de Trump n'est pas topissime, voilà, en termes de campagne. Oui, à la peau sombre, c'est Libération qui utilise cette expression. Il sert à quoi le vice-président ? Bah déjà, si le président meurt, c'est lui qui devient président, le VP. Voilà, ce qui est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire américaine, je crois. Déjà, et il va jusqu'au bout du mandat, contrairement à la France, où il ne reste le président du Sénat que le temps d'organiser une nouvelle présidentielle. Est-ce que les élections américaines sont différentes de celles de la France? Très différentes, Kikto. D'ailleurs, ce n'est pas un suffrage direct. Les Américains ne votent pas pour élire un président, ils votent pour élire des grands électeurs qui ensuite, grands électeurs qui sont réunis par État, et donc en fonction de leur poids démographique notamment, les États n'ont pas le même nombre de grands électeurs, donc c'est une élection suffrage universel indirect. Et en fait, ce sont les grands électeurs après qui votent pour le président. Ce qui peut arriver, qui peut à la marge, en cas de résultat très serré, arriver des résultats un peu bizarres, comme par exemple, ce n'est pas forcément celui qui a eu le plus de voix au niveau national qui peut l'emporter. Parce qu'il peut avoir, celui qui est arrivé juste derrière, si c'est très serré, peut avoir plus de grands électeurs. Voilà. C'est un système très différent du nôtre même. Voilà. Merci encore Cristiano pour le prime tout à l'heure. Hop, on arrive à la France, justement, puisque, précision, les grands électeurs peuvent faire moins d'un mètre 70, c'est autorisé. C'est pas sûr, c'est un X. Grands électeurs. Ah bah non. 1m70, c'est pas très grand. Je sais, moi, c'est ma taille. Voilà. Non, mais bien sûr, oui. Bonne blague, c'est validé, c'est validé. Un peu comme la législative, non, Xubul, pas comme la législative. La législative, c'est aussi un suffrage universel direct. Tu votes pour ton député, tu votes pas pour quelqu'un qui va désigner ton député. En revanche, tu aurais pu dire, c'est pour le Sénat, oui, parce que tu votes pas pour les sénateurs. Ce sont les élus, les maires, les conseillers régionaux, départementaux, tout ça, c'est eux qui élisent pour les grands, qui élisent les sénateurs. Voilà, comme le dit Défécator, chez nous, les sénateurs, salut Défécator, les sénateurs sont élus par de grands électeurs qui peuvent faire moins d'un mètre 70. La maison 10, ça permet de passer sous la barrière du métro. C'est faux, Estragon des Bois, parce que je fais cette taille et je ne passe pas sous les barrières du métro. Non, très, très ennuyeux d'ailleurs. Tu n'as vraiment aucun avantage à faire cette taille. En fait. Mais aucun. Quoi. Tu respires plus de gaz d'échappement, tu es plus proche des gaz d'échappement. Tu ne peux pas passer sous les barrières de métro. Quel avantage en vrai? Quel avantage ça donne? Je suis pas embêté plus que ça, mais... Pour les vêtements, c'est un avantage? Ben non, parce que moi, je m'habille au rayon enfant, donc j'ai pas toujours le choix, déjà. On court plus vite? Ouais, c'est vite dit. Hein. Avantage dans un incendie? Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que les fumées sont en haut. Ah oui, c'est vrai. Tu vis statistiquement plus longtemps, ça m'intéresse, Tilde. Si c'est vrai, ça m'intéresse. Le monde est plus grand pour toi, ok. Ok. Quand on visite des grottes ou des châteaux et le guide dit attention à la tête, généralement pas besoin de se baisser, c'est vrai. Souvent, je ne me blesse très peu à la tête, moi. Je me cogne rarement dans des trucs au niveau de la tête. Je passe souvent dessus. Quand tu fais une chute, tu tombes de moins haut. C'est pas faux. Oui. Tu peux devenir champion de MotoGP. C'est pas faux. Ok, c'est pas faux. Je vais en train de me réconcilier avec ma taille. Tu reçois la pluie après tout le monde. Ça n'est pas faux. Tu peux travailler à Fort Boyard. Ok, je vous emmerde, en fait. Voilà. Ouais. Le cul, en vrai. Bon. Le demi-poney est content quand il te voit, il aura pas mal au dos. Ok, d'accord. Au Portugal, tu es grand. Je suis portugais, me dit Nori. Alors, il y a un pays où, à une époque, quand je voyageais, quand j'étais jeune, j'étais célibataire et que je parcourais la planète pour rencontrer l'altérité des autres que moi, je me suis retrouvé au Guatemala. Je me suis promené un peu au Guatemala. Je me suis travaillé un peu promené dans la région, au Honduras, au Belize, au Guatemala, tout ça. Et nous sommes au Guatemala, et à un moment, je prends un bus réservé, pas un bus touristique, un bus emprunté par la population, quoi. Et à un moment, je suis debout dans le bus. Je m'accroche comme ça, il n'y avait pas beaucoup de place. Mais il roule comme des fous, les gars. Et à un moment, je me rends compte que je suis le plus grand du bus. J'étais le plus grand du bus au Guatemala. J'étais un putain de géant au Guatemala. Putain, C'est un moment, j'étais là.
J'étais un truc bizarre dans ce bus.
Oh putain. Et là, je me suis rendu compte que j'étais un géant pour les Guatémaltèques. Putain, tout le reste du séjour, j'étais en mode comme ça. Putain, mais ça, j'ai su ce que c'était en fait d'être grand. C'était un bus. Non, c'était pas un bus scolaire. Non, c'était pas un bus scolaire. Non, c'était un bus normal. Merci Valou le Marabout pour les bits, tu régales. Merci beaucoup. C'était pas un bus scolaire. C'était un vrai. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais en vrai, c'était impressionnant. Ah. Non, ils n'avaient pas tous des sacs d'oral exploratrice. Chien. Bon. Apolitique en France maintenant. Let's go, on en est où? Bah, nulle part, c'est toujours le bordel, toujours coincé. La course pour Matignon met Macron sous pression. Quand est-ce qu'on va avoir un Premier ministre? Quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement? Ça pourrait être une chanson. Ça pourrait être une nouvelle chanson. Quand est-ce qu'on va avoir un nouveau Premier ministre? Quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement? Ouais, en fait, bon, on ne sait pas. Tous ceux qui disent les gens dans le bus étaient assis, c'est ban def. Vous me bannissez ça direct, ça dégage. Ça dégage, vous allez sur la chaîne que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Tous les gens qui sont en train de dire que les Guatémaltèques étaient assis dans le bus, ça dégage. C'est ban def, direct. Et n'allez pas demander l'arbitrage après, je sais pas quoi, l'appel, tribunal de banni mes couilles là. Donc, on en est où de la politique? La course pour Matignon met Macron sous pression. Le chef de l'État qui a décrété une trêve olympique et politique, le temps des Jeux Olympiques, attend la fin de la compétition pour se pencher sur la constitution de son nouveau gouvernement. Bon, c'est ce qui se dit. Samuel Etienne, le Gwen Banyama du Guatemala, j'adore. C'est ce qui se dit, c'est qu'a priori, après les Jeux Olympiques et avant les Jeux Paralympiques, il y a 15 jours à peu près, on devrait en savoir un petit peu plus. Dernière désignée, mais première éliminée, Lucie Castet, hein, continue de chercher à exister, explique Le Figaro, en dépit de la fin de non-recevoir qui lui a été adressée fin juillet, la première ministrable du nouveau Front Populaire, je trouve que c'est important d'en parler, rêve toujours d'imposer une cohabitation à gauche au président. Alors que l'Élysée, de son côté, regarde plutôt vers la droite, où le scénario d'une alliance de circonstances ne semble plus totalement exclure. Moi, c'est ce que j'apprends un petit peu dans Le Figaro ce matin, c'est qu'a priori, le truc qui tiendrait le plus la corde, ce serait une alliance entre la Macronie, hein, et la droite. Moi, j'y croyais pas du tout, mais Figaro dit « Ah, peut-être qu'ils vont trouver un accord de je sais pas quoi ». C'est tout le sens de l'appel lancé dans Le Figaro par l'ancienne patronne des députés macronistes, hein, Aurore Berger, qui demande à ses troupes de s'entendre sans attendre avec les Républicains pour gouverner ensemble. Alors que Xavier Bertrand, on en parle beaucoup en ce moment, s'est lancé dans une discrète campagne pour prendre la tête. Il y a quelqu'un qui me fait remarquer, mais ils n'ont pas gagné. Bah, t'as raison. Et ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais oui, mais t'as raison. Alors que Xavier Bertrand s'était lancé dans une discrète campagne pour prendre la tête d'un gouvernement d'urgence nationale. Alors, quand tu vois les résultats de LR, la droite aux législatives, tu te dis, mais ils ont fait un score ridicule aux législatives. Bah oui, oui, oui. Le ministre démissionnaire cite le patron LR des Hauts-de-France comme l'un des possibles traits d'union avec le bloc central. Voilà, l'alliance des perdants. Eh oui. Voilà, c'est l'alliance des perdants qui du coup, deviennent des gagnants. Oui. The yes need the no. To win against the no, un petit peu, quoi. Donc, lisons un petit peu cet article du Figaro pour comprendre ce qui se passe un petit peu, là. Remaniement, ce qu'Emmanuel Macron a en tête pour sortir de l'impasse politique avec, après les JO.
Excusez-moi, je regarde un truc.
Ce qu'Emmanuel Macron a en tête, moi ça m'intéresse. Depuis le fort de Brégançon, alors j'ai appris que le fort de Brégançon, le président Macron l'avait rebaptisé, c'est très drôle, vous allez voir. Depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État réfléchit, puisqu'il fait des allers-retours entre le fort de Brégançon dans le Var, vous savez, cette résidence officielle des présidents là. Je crois que c'est Chirac qui l'aimait. Ou Chirac qui l'aimait pas du tout. De Gaulle qui l'aimait bien. Bref, peu importe. Depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État réfléchit à nommer un profil rassembleur à Matignon qui échapperait à une motion de censure. Il se résout à ce que son futur Premier ministre ne soit pas de son camp, tout en excluant de céder au NFP. Donc en gros, de droite. Quoi, hein. Depuis plus de deux semaines, son gouvernement est composé de ministres démissionnaires chargés des affaires courantes. On parle de Macron. Une situation baroque à laquelle il entend mettre fin entre la clôture des Jeux le 11 août et l'ouverture de la quinzaine paralympique. Ce sera le 28 août, puisque effectivement, il y a quasiment 15 jours de pause entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais quand ça va arriver, je vous trouverai des explications. Il y en a sûrement une. Le nouveau Front populaire, premier bloc à l'Assemblée avec 193 sièges, hein, la gauche c'est important, lui a soumis un nom après de longues négociations internes, ça n'a pas été facile, celui de Lucie Castet, hein, vous le savez, en campagne pour se faire connaître. Actuellement elle est en campagne un peu partout en France, là, elle fait des petits meetings, mais Emmanuel Macron refuse de nommer cette haute fonctionnaire parisienne de 37 ans comme toute personnalité de l'Alliance de gauche. Macron ne veut pas d'une personnalité de gauche à Matignon. Et il dit, il est faux de dire que le nouveau Front populaire aurait une majorité, quelle qu'elle soit, il estime que 193 sièges, tu ne peux pas gouverner, tu es trop à la merci d'une motion de censure non-stop. Insoumis, écologistes, socialistes et communistes ne sont pas du tout d'accord, hein, bien sûr. S'ils refusent de nommer Lucie Castet, c'est du sabotage, déclare notamment Marine Tondelier, la patronne des écologistes. Depuis l'Élysée-sur-Mer, c'est drôle, le président Macron, il a rebaptisé le fort de Brégançon l'Élysée-sur-Mer. C'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça très drôle. Chemical What The Fuck, merci pour le 35e mois. Tu es quasiment au maximum, mon ami. Ouais. Merci, Slipo, pour les bits. Depuis l'Élysée-sur-Mer, où comme il surnomme le fort de Brégançon, Emmanuel Macron teste donc en ce moment des profils alternatifs. Il laisse les membres de son aile gauche avancer le nombre de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, par exemple. Et il autorise les représentants de son aile droite à évoquer celui de Xavier Bertrand, intéressé par cette perspective. Cazeneuve, Bertrand, pas Léon, hein, Xavier. Le président LR de la région Hauts-de-France a une expérience solide de gouvernement, du Parlement, du compromis, tout comme le président LR du Sénat, Gérard Larcher, et l'ancien ministre Michel Barnier. Voilà. Donc voilà, on est quand même sur des pistes qui sont assez... enthousiasmante, hein, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, Michel Barnier, à Matignon. Nous avons besoin d'un nouveau Premier ministre, dit Aurore Berger, qui donne une nouvelle impulsion. Ah, je me suis encore gouré ? Léon Marchand, je me suis encore gouré ? Ah oui, je me suis encore gouré. Léon Marchand, Xavier Bertrand, je suis paumé là. J'y arrive plus. Tous les jours, je me trompe. Désolé. Consciente que toutes ces personnalités que je viens d'évoquer ont un mérite, ah, elles ne sont pas macronistes. Voilà. Elles diffuseraient ce parfum de cohabitation, voilà, que recherche Emmanuel Macron selon son entourage. Donc certes, il ne nommerait pas de quelqu'un de gauche, mais il pourrait dire, bon, vous voyez, c'est une cohabitation, j'ai nommé un gars qui n'est pas de mon camp. Du coup, le président Macron jugerait sérieuse aujourd'hui la piste d'un compromis avec les troupes de la droite républicaine, et là faisons un peu d'arithmétique. Si on additionne les élus macronistes à la droite LR, 47, plus les macronistes, ça fait 213. 213 députés. On n'est toujours pas sur une majorité absolue. Mais on est au-delà des 193 sièges du bloc de gauche. C'est ce qui permet de dire à Macron, vous voyez, c'est mieux pour éventuellement résister à une motion de censure. Voilà. C'est l'argumentaire du président. Ce n'est pas le mien, c'est celui du chef de l'État. Sans compter l'éventuel soutien des Macron compatibles issus du groupe Liot. Premier problème, dit le Figaro, l'opération ne peut fonctionner que si le Rassemblement national observe une forme d'indifférence à cette alliance entre le centre et la droite en ne votant pas de censure. Hein. Ce soutien tacite serait l'exact contraire de l'esprit du Front républicain en place lors des élections, a récemment prévenu l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin. Deuxième accro à cette stratégie, souligne le Figaro, les oppositions n'ont guère d'intérêt à devenir co-gestionnaires de la fin du quinquennat d'un président qui aujourd'hui est affaibli à moins de 3 ans de la présidentielle, lui-même, voire avant, en cas de démission. Moi, je suis prêt, au cas où. Lui-même concentré sur l'échéance de 2027, le présidentiel de la droite Laurent Wauquiez exclut d'ailleurs toute coalition gouvernementale avec les macronistes, mais attention, c'est intéressant, il se dit prêt à sceller un pacte législatif d'urgence autour de 13 lois comprenant des mesures fermes sur l'immigration, la justice des mineurs, l'assistanat, un programme d'économie budgétaire ou encore un soutien au nucléaire. Voilà. Intéressant, hein ? Je trouve que cet article du Figaro est extrêmement clair sur là où nous en sommes en ce moment, c'est-à-dire nulle part. Tadam ! Non, en vrai, c'est un bon article. Attendons la fin des Jeux, on verra. Le président Macron, il ferait bien un truc avec la droite, quoi. Vous l'avez compris. Il temporise, il essaie de se refaire une image avec les Jeux. Ouais, mais ça marche pas, Axel Fuego. C'est pas en se prenant en photo avec des sportifs que ça fait remonter une cote politique, ça. Personne n'est dupe. Une bifle, critical spirit, une bifle. Doucement sur les mots quand même. Ici, il y a une forme de liberté dans l'expression, mais mollo les bifles. Enfin, on est où là ? On va chez les gueux quand même. Hein, il y a une tenue ici. Alors, bon. Merci la gueuse, tu as un laidron, mais tu es bien bonne, j'ai la ref. Bon, on passe au jeu. Désolé, je vais me refaire un petit café, parce que là, je suis en manque de caféine, parce que c'est mon deuxième déca, du coup, je m'endors, c'est totalement débile. Et là, attention, séquence olympique, c'est parti. Les JO, les résultats, la parenthèse enchantée. Donc là, c'est une vraie petite pause. Autant me faire un petit café, j'ai une petite viennoiserie. J'ai arrêté le sucre, les viennoiseries, les gâteaux, là, cet été. Je suis en train de m'assécher un peu, notamment dans la perspective du reveal de mes tatouages à la Zilane, si j'obtiens un certain palier de sous-sous. Voilà, donc il faut que mon corps soit un petit peu à son prime, pour qu'on dise pas « Ah, c'est Samuel, il a des tatouages sympas, dommage qu'il ressemble à un petit tas de... une petite motte de beurre, n'est-il pas ?» Donc, on part sur les... Je me pars sur un petit café, je finis ma viennoiserie. Voilà. J'ai dit la Zilane encore ? Ah, oh, putain, j'ai encore dit la Zilane ? Putain, à la Zilane, je disais le The Event. Et au The Event, je vais dire la Zilane. Oh, quel enfer. Ne vieillissez pas. La vieille, c'est un naufrage. Putain, j'ai interviewé Zerator à la Zilane en parlant du The Event. Voilà. Et au The Event, je vais streamer pendant 3 jours en disant « Ouais, c'est trop bien la Zilane. » Ne vieillissez pas. C'est un enfer. Oh mon Dieu! Allez, je vous mets une musique douce. Non, c'est pas ça, ça. Ça. Aimez-vous les uns les autres? Enfin, pas tous en même temps, ça, c'est dégueulasse. Petite pause musicale, je vous retrouve dans 3 minutes avec un petit café. Et puis, on parle des Jeux Olympiques, on va bien rigoler. A tout de suite, bande de belles personnes. Ça y est, tout le monde dort. Ça y est, tout le monde dort, c'est bon. Ça va les amis? Quelqu'un qui dit dans le chat, t'es vu là, jamais compris ce délire avec Sloubi là. Alors ça peut te rassurer, moi non plus, j'ai jamais compris cette histoire de Sloubi là. Après les jeunes, moi je vous en veux pas, vous avez vos valeurs, vos repères, votre langage, vos codes, hein, ça parle en verlan, meuf, tout ça là. Bon, c'est beau, hein. Moi je voilà, mais je comprends rien. Ah, Sloubi. Ah, ça vient de Kaamelott. Ah, mais c'est ça, mais c'est ce que pour moi c'est jeune. Ouais. Ah, c'est une rêve à Kaamelott en vrai. Ah, c'est une belle rêve alors. Je ris parce que pendant que je faisais mon café, que je mangeais ma viennoiserie et que je faisais pipi tout ça en même temps, bien, j'allais voir sur Twitter un petit peu ce qui se passait. C'est drôle parce que depuis mon annonce, ma participation aux The Event, donc je suis très très heureux de ça, vous le savez. Bon, il y a tentative, comme souvent d'ailleurs quand je fais un truc d'attrapage de la veste du pauvre papy Sam qui sort de l'EHPAD, là, qui a du mal à traverser la rue, mais qu'on vient chercher quand même, qu'on vient chercher sur des trucs. Et puis, alors, ce qui est mignon aujourd'hui, c'est que comme il y a quand même une partie des gens qui se sont rendus compte que sur Twitter, parfois ça partait un petit peu dans tous les sens, avec des accusations qui étaient souvent dénuées de fondement. Moi, je réagis plus, je n'interviens plus, parce qu'en fait, tu nourris le troll. En fait, j'ai appris à ne pas réagir. Ça prend du temps, mais tu apprends à ne pas réagir quand tu estimes que la polémique n'est pas justifiée. Et que finalement, en réagissant, tu ne vas que nourrir la trollerie et la bêtise. Mais ce qui est chouchou, c'est que du coup, ben, c'est les gens qui réagissent pour moi. Et il y a plein de gens qui ont bien compris qu'il y avait des gens un peu excessifs quand même dans ce forme de tribunal populaire que Twitter peut accueillir parfois. Et c'est des gens eux-mêmes qui maintenant vont dans les commentaires et font le débat et se moquer un petit peu des Robespierre et des Saint-Just de 2024. Donc ça, je me suis un peu régalé de ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Voilà. On part sur les genoux de Dieu. T'es parti ? Mais en vrai, voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, j'ai vu Sugarillo. Super bonne nouvelle, super idée, les modes spéciales de The Event.
Ouais.
Exactement. Je vais demander à Pépin de travailler là-dessus. C'est une très bonne idée. On y go ? C'est parti ? J'ai un yes ?
Yes ! Give me a Y ! Give me an E ! Give me a F ! Yeah !
Bon. On fait ça pendant... Bon, on a le temps en plus. Après, il faudrait que je vous parle de... Je vous parlerai de Time Out qui revient, parce que j'ai... On est à la recherche de viewers pour participer à notre prochaine édition de notre jeu Time Out. Voilà, des viewers de Montpellier. Puis on cherchera des viewers d'autres villes aussi après, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, est-ce que les Jeux Olympiques sont une parenthèse ? Enchanté. Succès sportif et engouement populaire, la parenthèse. Enchanté. Titre, Le Monde de Paris 2024. Au mi-temps des Jeux Olympiques, l'équipe de France a déjà battu son record de médailles, porté notamment par Léon Marchand et Teddy Riner. Ces exploits sportifs sont renforcés par la réussite populaire de ces Jeux, avec un public français déchaîné dans les tribunes. Alors, c'est une parenthèse qui est appréciée par plein de gens. Il y a des gens dans le chat qui me disent « Ah Sam, ça fait du bien, ça change un peu de l'actu, là, tu nous casses les couilles avec tes sujets habituels, ça fait plaisir, quoi. » Mais est-ce que c'est une parenthèse donc qui va forcément être refermée, ou est-ce que il va en rester quelque chose ? C'est la question que se pose le monde. Depuis 10 jours, les Français partagent des moments d'émotion collective, loin de l'image laissée par les récentes élections d'une société divisée et en proie au doute. S'agit-il seulement d'une parenthèse joyeuse et légère, d'une respiration après des semaines en apnée politique dans un pays divisé en proie au doute, aux polémiques, ou bien du signe d'un mouvement révélateur de tendances plus positives dans la société française ? Bon, moi je ne suis pas si... Je ne dis pas ce que je pense, mais ça me paraît un peu optimiste. À se regarder dans le miroir, les Jeux Olympiques, depuis leur ouverture le 26 juillet, la France, en tout cas, une partie de celle-ci, reconnaît un moment inhabituel, suspendu, comme si la trêve olympique, cette promesse qui n'a jamais existé dans le monde par ailleurs, se réalisait partiellement dans la société française pour quelques semaines. J'espère que même après les Jeux, les gens sont moins aigris, espère Adrien. C'est beau, mais... Merci en tout cas, Koskinou, pour le deuxième mois d'abonnement. Les JO ont d'abord balayé le reste de l'actualité nationale et internationale. Elle n'a pas disparu, mais elle est passée au second plan. Or, c'est une actualité qui est souvent anxiogène. Paris, la capitale française, offre par ailleurs un visage inhabituel, sous cloche policière, certes, mais avec une forme de bienveillance que racontent les supporters croisés dans les fan zones. Aux abords des stades, les touristes sont très contents de l'expérience de jeu à Paris. Je trouve qu'ils sont bien accueillis par tout le monde, y compris par les Parisiens, ce qui est... juste surréaliste. Dans les espaces touristiques ou même sur la butte Montmartre, transformée pour 2 après-midi, samedi 3 et dimanche 4 août, en l'équivalent d'une étape de montagne du Tour de France pour les épreuves masculines et féminines de cyclisme sur route. C'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance là-bas. Les JO ont aussi commencé par une cérémonie d'ouverture qui a été saluée presque unanimement à l'étranger, même s'il y a eu des petites polémiques. La fierté ressentie et sans doute aussi à la hauteur des anticipations négatives, réflexe. Alors là, je ralentis parce que c'est très intéressant. La fierté ressentie est sans doute aussi à la hauteur des anticipations négatives, réflexe culturel collectif dans le monde journalistique français et donc dans le débat public. Le Monde, en quelques mots, nous fait quand même passer l'idée que dans l'image très négative que nous avons de notre pays, les médias ont un rôle. C'est très intéressant. Voilà. Réflexe culturel collectif dans le monde journalistique. Les anticipations négatives. Moi, je suis un des premiers à dire, c'est quand même dommage que sur les réseaux sociaux, pendant des mois, on ait fait le procès de ces Jeux en disant que ça allait être un enfer de circulation, de non-organisation, de sécurité, de tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas que les réseaux, il y avait sans doute certains médias aussi qui portaient cette petite musique, ou en tout cas qui lui donnaient un écho, parce que peut-être ça fait vendre les drames, les catastrophes, etc. Quoi. C'est un peu ce que le monde nous fait passer comme idée. Il faut qu'on arrête de râler, il y a les Jeux qui arrivent à Paris, on va recevoir le monde entier chez nous, ça va être beau, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. C'était par exemple agacé Yannick Noah, hein, qui est à la tête de l'équipe de France de tennis fauteuil aux Jeux Paralympiques, pour lequel j'ai pris des billets d'ailleurs. Moi, j'ai pas de billets pour les Jeux, mais j'irai aux Jeux Paralympiques. Tony Estanguet avait lui aussi dénoncé le pessimisme latent, permanent, des Français. Je m'arrête un petit peu parce que peut-être sur les médias, vous voulez réagir. Ah, les médias qui surfent sur les polémiques. Certains ont quitté Paris à cause de ça. Maintenant, ils regrettent. Oh, je ris d'ailleurs, parce que moi, j'étais en Franche-Comté ce week-end. Et j'ai rencontré bon, beaucoup de franc-comtois dans les commerces ou ailleurs. Et donc, ils nous demandaient où on était, parce qu'on est allé visiter genre, des musées, des trucs comme ça. Et parfois, dans les trucs touristiques comme ça, les gens disent « Mais vous venez d'où ?» C'est pour leur stade, quoi. On dit ben, « On vient de Paris. » Même si mon épouse est de la région. Et, ah, vous avez fui les Jeux. Encore, tu as le réflexe. Ah, vous avez fui les Jeux. Non, on est juste là pour le week-end. On est venu voir les enfants qui sont avec leur grand-mère. Non, mais ça se passe très bien, en fait, hein, les Jeux, en fait. C'est super Paris en ce moment. Hein. Ah bon ? Vous voyez, ce discours dominant pendant des mois, quoi. Hein. Et tous les gens que je croise qui ne sont pas à Paris, ils sont, mais je pense que vous en avez fait vous-même l'expérience, c'est l'enfer, hein. Non, c'est comme tous les étés à Paris, c'est très agréable. En fait, c'est la ville n'est jamais aussi agréable que l'été. Et là, c'est pareil, moi, un peu mieux. Non, mais je voulais dire la circulation. Tout ça, là, quand même, pour vous déplacer, bah, en fait, non. Faut juste, il y a 2-3 points à éviter, là. Pas très compliqué, en général, les taxis, ils savent. Non, mais je voulais dire... les gens veulent absolument que ça se passe mal, en fait. J'adore. Et au moment où tu dis bah, que t'es sur place et que bah, non, ça se passe, quoi, les gens sont très déçus, en fait. Donc ça, c'est très, très drôle, ça. Voilà. Alors, les médias ont peut-être un rôle dans tout ça, et je pense qu'ils amplifient peut-être ce côté un peu pessimiste qu'on a, quoi. Voilà. Qu'on veut avoir aussi un petit peu. Voilà. Quel fait incroyable, les meilleurs jeux de l'histoire. Bah oui, Shadow, c'est plutôt ça qui est en train de se passer. Ouais. Après, il y a à la marge, on va avoir des trucs, il y a des petits machins qui vont pas forcément. Mais globalement, il est compliqué de dire autre chose que globalement, ben, ces jeux sont réussis. Quoi. À ce jour, hein, il reste une semaine. Mais ces jeux sont réussis. Voilà. À la marge, vous allez trouver des trucs. Mais globalement, qu'est-ce que je vous disais il y a quelques mois ? En pleine effervescence sur le bad buzz, sur ça va être un enfer, ni fait ni affaire. Quelle honte d'accueillir les Jeux Olympiques, c'est les choses que j'ai lues dans le chat ici, moi. Hein. Quelle honte d'accueillir les Jeux Olympiques, etc. Qu'est-ce que je disais, bah, Je disais, attendez les gars, on jugera sur pièce. Comment vous pouvez savoir que ça va être un enfer? Comment vous pouvez savoir que ça va être raté? Attendez. Et moi j'étais comme vous devant la cérémonie d'ouverture, où je suis resté planté pendant 4 heures, en me disant, ce truc va peut-être être une grosse bousasse. Et j'ai regardé, et puis j'ai pris une grosse claque dans ma gueule, et j'ai fait waouh! Putain, votre cérémonie là, il y a les aspects on aime, on n'aime pas, mais globalement c'est une dinguerie quoi. Et après, et les jours qui ont suivi, les gens disaient c'est bien organisé, les sportifs sont contents, le paysage des jeux, les sites sont incroyables. Hein, et donc, ben voilà, on a jugé sur pièce, et c'est ça qu'il aurait fallu dire peut-être il y a quelques mois, quand il était un peu tendance de dire. Notamment sur les réseaux, dans les médias ou même dans ce chat, que ça allait être un enfer. Hein, vous l'avez tous entendu, ça. Bah, peut-être qu'il faut attendre et juger sur pièce. Voilà. Je continue. Je ferme ma parenthèse. Donc, bon, certains chiffres illustrent ce succès. 10 millions de billets mis en vente. 9,2 millions vendus, selon les organisateurs. Lorsque les gens se rassemblent de grands groupes, ils ont tendance à expérimenter ce que le sociologue Émile Durkheim a décrit comme une effervescence collective, un état où les émotions collectives s'intensifient et génèrent un sentiment d'appartenance et d'union, avait écrit juste avant les Jeux François Miguet-Marty, qui est le président d'un institut de sondage qui s'appelle Via Voice. La magie peut-elle avoir un impact politique ? Alors moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est bon, bah, les Jeux sont réussis, a priori. Est-ce que ça peut avoir des conséquences positives pour notre pays après ? La magie peut-elle avoir un impact politique ? Le président de la République et la ministre des Sports démissionnaires multiplient certes les embrassades, vous avez vu ces images, avec les athlètes français pour les réconforter ou les féliciter dans l'espoir déconcertant, écrit Le Monde, de capter un bout de la lumière. Déconcertant, Le Monde est très poli. Moi, je suis un peu gêné par ces images. L'histoire n'incite pas à un optimisme démesuré sur le temps long. La France black, blanc, beurre de 98, promue après la victoire de l'équipe de France de Zidane, avait été suivie par le 21 avril 2002 et la présence de Jean-Marie Le Pen pour la première fois au second tour de la présidentielle. Hein. Donc cette effervescence de la France blanc-beurre, elle n'avait pas duré 1000 ans. Quoi. Cela avait confirmé que les grands rassemblements populaires ne racontent pas, c'est intéressant cette phrase, l'article du Monde est vraiment sympa. Cela avait confirmé que les grands rassemblements populaires ne racontent pas totalement l'état d'un pays, mais que les élections dépeignent elles aussi une partie seulement du visage de notre société. Cette France fracturée que nous a peint les législatives par exemple, c'est en partie vrai, mais la France n'est peut-être pas à ce point fracturée. Et cette France dans la liesse, collectivement unie pour célébrer les médailles, c'est un des visages de notre pays, mais la France n'est pas que ça, bien sûr. Les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, ça ramène l'idée qu'on est français, que c'est bien, qu'on est bien ensemble, encore plus quand on a vécu une division de la société comme jamais, relève Patrick Mignon, qui est un sociologue du sport et de la culture. Analyse du démographe Hervé Lebras, lui, il n'est pas très optimiste sur la suite. Les Français soufflent un peu en ce moment, mais je crains qu'ils retournent vite à leur pessimisme une fois les Jeux clos. C'est ce que dit aussi Mystérieuse dans le chat. Le succès du Parcours de la Flamme disait déjà quelque chose d'une envie de partager, du visage complexe de la France. C'est vrai que ce Parcours de la Flamme a eu un succès, moi, qui m'a assez surpris. Merci, Shenshira. Merci pour le raid. Merci à toi. Merci du soutien. Plusieurs millions de spectateurs ont suivi la flamme entre son arrivée à Marseille le 8 mai et la cérémonie d'ouverture à Paris. Moi, c'est vrai que j'étais assez surpris du succès de la flamme, les gens qui se massaient pour voir la flamme. Moi, ça m'a surpris. Conséquence aussi. Alors, la fin du papier du Monde, c'est qu'il n'y aura sans doute pas de conséquences sur l'humeur politique du pays, sur le vivre ensemble. Moi, je n'y crois pas. Il y aura peut-être des conséquences sur la pratique sportive en France. La France compte 160 000 clubs sportifs pour 16,5 millions de licences sportives. Et ce moment est aussi le moment de ces sportifs amateurs. Au fond, les Jeux font vivre le troisième pilier de la République, la fraternité. Le concept le moins débattu, le plus insaisissable du triptyque liberté, égalité, fraternité. Particulièrement abîmé de surcroît par les confinements au moment de l'épidémie de Covid-19. Le nombre de licences sportives avait ainsi brutalement chuté entre 2020 et 2021. Les Jeux et la multiplication des médailles pour la France peuvent laisser espérer un boom des inscriptions dans les clubs pour 2024. La rentrée scolaire représente toujours un moment déterminant dans la vie associative. Il y a plein d'enfants, plein de jeunes, d'ados, peut-être d'adultes qui effectivement vont s'inscrire dans un club de sport à la rentrée. C'est assez évident. C'est peut-être d'ailleurs dans la pratique sportive et physique que se mesurera l'impact le moins spectaculaire, mais le plus important, le plus durable de ces Jeux, à la fois sur la santé, sur le bien-être et donc sur le moral des Français. Pas mal. Hein, des conséquences immédiates sur l'état d'esprit des Français, peut-être pas, mais le fait que les Jeux incitent plus de Français demain qu'hier à pratiquer un sport, ça va leur faire du bien et quelque part, ça va faire du bien au pays. Ok, j'achète, ça me plaît. Voilà. Bon, moi, je suis en train d'arrêter progressivement le sport pour plus streamer, mais bon. Nuke Nuke, hello Samuel, je viens de voir une pub YouTube où Samuel apparaît en train d'interroger un patron d'entreprise du tabac. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou un fake bizarre? En fait, c'est un truc qu'on a fait avec une association de lutte contre le tabagisme. Et en fait, ce patron d'entreprise du tabac, c'est un acteur qui incarne tous les méfaits de l'industrie du tabac. Il faut aller voir la vidéo. Voilà. C'est un message un petit peu malin pour notamment attirer les plus jeunes sur les dangers du tabagisme. Vous êtes plusieurs à me demander si je vais faire le marathon des Jeux Olympiques ce week-end, là, le soir. Suspense. Suspense. Ça veut dire oui, dit Mystérieuse. Ça veut dire suspense. T'y verras. Qui vivra, vivra. Qui vivra, vivra. Si tu ne vis pas jusqu'à ce week-end, tu ne sauras pas. Suspense. Ça veut dire oui. Ça veut dire suspense. Non, ça veut ça. Ah, tu vois, Saint-Loup dit ça veut dire non. Ça ne sait pas. On ne sait pas. qui vivra vieillira. Tout à fait. On ne sait pas. Peut-être que je ferai un petit stream Valorant ou Elden Ring à la place. Je t'aime Kylian bébé, je m'appelle pas Kylian. Je t'aime Kylian bébé, qu'est-ce que ça vient foutre dans mon chat? Je m'appelle pas Kylian. Voilà. Qu'est-ce que c'est cet article? Ouais, bon, c'est le Monde qui donne la parole à des Français qui regrettent d'avoir quitté Paris, par exemple. Voilà. Ou à des journalistes. C'est marrant, je vous lis un extrait de ce papier-là. Le Monde est allé donner la parole à une autre catégorie d'humains aussi blasés que les Parisiens. Voire plus, les journalistes, les envoyés spéciaux étrangers, habitués à courir d'un événement mondial à un autre, gavés d'exploits, experts en extraordinaire, donc des gens qu'on n'impressionne pas facilement. Okay. Qu'est-ce que disent ces journalistes étrangers actuellement à Paris pour couvrir les Jeux? Bah, waouh. Jerry Brewer, c'est un Américain. Correspondant pour le Washington Post. Qu'est-ce que dit Jerry Brewer? Il dit, si certains Jeux ont fait du pays hôte un simple accessoire, Paris se sert des Jeux comme d'un accessoire. Il y a ici plus de synergie entre l'événement et le lieu que dans n'importe lequel des 7 Jeux Olympiques auxquels j'ai assisté. Qui dit ça? Jerry Brewer, mesdames et messieurs. Un journaliste du Temps, quotidien suisse, salue la mue de Paris en iconique terrain du sport. Des sanglots dans la voix, une reporter irlandaise raconte les escrimeurs descendant les escaliers monumentaux sous le dôme du Grand Palais, ça c'était magnifique. C'était au-delà de la beauté, au-delà de la magie, dit-elle. Soudain, tout semble touché par la grâce. Voilà. Voilà. Ça, le journaliste américain, là, il dit quand même que c'est le plus beau des 7 Jeux Olympiques auxquels il a assisté. Jerry Brewer. Il dit ça. C'est incroyable, quand même. Un rien m'amuse, moi. Le Parisien consacre aussi sa une à tous in love de Paris, ça se passe bien, voilà. Mais aussi et surtout au dernier résultat, et pas qu'aux Français, ne soyons pas trop chauvins, Jerry Brewer. Staya. Jerry Brewer, il s'appelle. Voilà. Et notamment Armand Duplantis, voilà. Qui, comme son nom ne l'indique pas, est suédois. Armand, t'as envie de dire Armand, médaille d'or pour la France, Armand. Eh ben non. Voilà. Donc, champion olympique en battant en plus un record du monde. Voilà. Donc là, on a un article dans le Parisien qui dit ce que je viens de vous dire, à savoir qu'en fait, tout est réussi. Je m'arrête un instant sur la cérémonie de clôture parce que, merci le Parisien, on a des petites infos sur la cérémonie de clôture. Ils vont illuminer la clôture. Ce sera donc dimanche soir, je crois. Les groupes français R et Félix, qui rencontrent un énorme succès aux États-Unis, joueront dimanche soir au Stade de France. Voilà. Oh, bah t'es avec mon épouse, Pigalle Twitch, j'ai eu la chance d'assister au beach volley hier, sûrement l'un des plus beaux stades des Jeux de Paris au Champ de Mars, Tour Eiffel. Je peux vous dire que c'était incroyable de joyeuseté, d'organisation, de sécurité, de sourire, j'ai plus qu'adoré. En plus, il y avait une femme rayonnante, magnifique, belle, qui irradiait. Le soleil semblait se refléter sur sa peau. Elle avait une espèce de magnétisme, d'allure incroyable. Je ne sais pas qui c'était. Bah, c'était ma femme, elle y était aussi. Elle a été invitée au dernier moment par son employeur hier. Elle rêvait de... aller voir le beach volley et aller voir. Ouais. Bah, c'était ma femme, en fait. Incroyable. Ah bah, tu étais à quelques mètres de mon épouse. Ouais. Elle était super contente, elle m'a raconté, elle était super heureuse. Ouais. Hélène, elle kiffe, elle regarde jamais le sport, et là, elle est red dingue des Jeux, c'est trop mignon. Ouais. Oui, par son employeur, ouais, par sa boîte. Elle travaille pour une grosse boîte, Hélène, donc qui est partenaire des Jeux. Donc, à un moment, je sais pas, l'histoire est trop mignonne. Bon, Hélène, elle bosse beaucoup, c'est un peu une folle de son boulot. Et voilà. Et puis le matin, elle travaille. Et puis à un moment, elle va aux toilettes. Et qui écrase aux toilettes? Eh bien, la responsable pour une marque de montre, parce que Hélène travaille dans ce secteur-là, de la partie un petit peu JO machin là. Et elle dit, ah, c'est formidable les Jeux. Moi, j'aurais rêvé d'aller voir le beach volley. Sous la tour Eiffel. Elle m'en parlait tous les jours, Hélène. Elle n'a pas réussi à trouver des places. Et la personne lui dit, ben, c'est marrant parce que, en fait, il y en a là ce midi. Et puis, il y a des places qui sont libérées. Pop, 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 pop. Et voilà, et hop, et elle est partie au volet. C'est trop mignon. Elle était trop contente. Elle m'a envoyé un message, elle était trop heureuse. Ouais, tout ça super. Elle a pris une jolie photo de la Tour Eiffel, tout trop mignon. Donc elle était très contente. Voilà. Bon, okay, c'est marrant parce que Hélène, alors, rien carré du sport. Elle n'a jamais regardé un événement sportif de sa vie. Elle est totalement hypée par les jeux. Elle trouve ça incroyable que ce soit dans des sites aussi beaux et tout. C'est marrant. C'est drôle. C'est vachement intéressant. Hein, en vrai. Mm. Donc, voilà. Puis là, ce soir, elle va un autre truc encore. Voilà. Comme ce soir, c'est que je vais streamer. Elle va aux Jeux Olympiques. Donc, la cérémonie de clôture dimanche. Donc, vous savez qu'on... C'est une ouverture, on a eu Céline Dion, on a eu Lady Gaga, Yaa Nakamura, Gojira, incroyable. Voilà. Et donc là, on aura toujours avec le metteur en scène Thomas Joly, hein, qui nous a régalé lors de la cérémonie d'ouverture, eh bien, un show bluffant, nous dit Le Parisien, pour terminer cette quinzaine olympique. Un spectacle intitulé Record, qui se tiendra au Stade de France. Ce sera au Stade de France. Non, c'est pas moi sur la moto. J'ai vendu toutes les motos, moi. C'est Tom Cruise. Et durera près de 2 heures. Bon, moi, vu comment j'en ai pris plein les yeux à la cérémonie d'ouverture, moi, je vais regarder la cérémonie de clôture. Là. Selon les informations du Parisien, les groupes R et Phoenix, donc groupe français, joueront dimanche soir dans le cadre de cette cérémonie. Je pense que ça va être pas mal, façon d'incarner cette French Touch dont les Américains raffolent. On évoquait Jean-Michel Jarre. A priori, il ne sera pas là, selon le Parisien. En revanche, toujours selon les informations du Parisien, Tom Cruise sera bien là. Pour symboliser, pourquoi Tom Cruise, le passage de relais entre Paris 2024 et Los Angeles 2028. Voilà pourquoi il y a Tom Cruise. La star va participer à une séquence de 7 à 8 minutes opérée par les Américains juste avant le discours protocolaire, qui intégrera les images de la course-poursuite que le comédien a tournée en avril à Paris. Des vidéos le montraient alors lancé à toute allure sur une moto. Je fais les virages. Bref, voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Avec un grand drapeau blanc avec lequel il ne manquait plus que les anneaux olympiques. Présent à la cérémonie d'ouverture et dans la capitale où il a été fait chevalier des arts et des lettres par Rachida Dati, on apprend que Tom Cruise a été fait chevalier des arts et des lettres, mesdames et messieurs. Et du coup, j'apprends que j'ai 3 points communs avec Tom Cruise. 1, il n'est pas très grand. 2, il aime la moto. 3, il est chevalier des arts et des lettres. Et maintenant, je pose la question. Est-ce qu'on a déjà vu Tom Cruise et Samuel Etienne dans la même pièce ? Ah, par contre, je suis pas scientologue, merde. Ouais, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. 4, il est vieux. Ok, on passe à autre chose. Donc, donc voilà, il devrait être à la cérémonie de clôture. Voilà, c'est pas mal ça. Hein, voilà, et puis les derniers résultats, les amis. Le basket 3-3, formidable, les hommes, la médaille d'argent de fou. Ils ont mis le feu à la Concorde. Arrivé sur la pointe des pieds à Paris après une qualification miraculeuse, les basketteurs français sont passés à 2 doigts de l'exploit et décrochent une belle médaille d'argent. GG les gars, et dire qu'ils n'avaient encore jamais joué ensemble en compétition, ça c'était magnifique. La médaille d'argent en kayak cross aussi d'Angèle Hugues, hein, magnifique aussi, hein, dans cette nouvelle discipline là qui est assez spectaculaire, le kayak cross. Voilà, encore une médaille d'argent, et bien sûr Duplantis. Voilà, on a... Ah ouais, c'est clair, Soul Caribou, je comprends. Ouais. Moi aussi, je serais un peu en colère. On a un article qui est très, très beau. Alors, c'est la une de l'équipe, hein, bien sûr, ce matin, mais c'est aussi cet article dans Le Parisien. Voilà. Seul le ciel et sa limite. Hein. Athlétisme, saut à la perche. Le Suédois Armand Duplantis. Bon, ouais, on veut dire qu'il est français, il s'appelle Armand, le gars. Faut arrêter les médias de nous raconter des carabistouilles. Le gars, il n'est pas suédois, il s'appelle Armand. Armand. Ça, vous me rajoutez ça sur le tableau de médaille de la France, les gars. Armand ! Armand ! Enfin ! Il est américano-suédois, mais qu'est-ce que vous racontez ? Armand ! Le Suédois Armand Duplantis s'est offert un second titre olympique et un énième record du monde avec une barre à 6,25 mètres. Ah, il est né en Louisiane, origine française par son père américain.
Ok.
Dans un stade de France en fusion monstrueux. Très bel article. Voilà. Bon, grâce à vous, on sait que du coup, il a des origines françaises via son père américain, la Louisiane, tout ça, tout ça. Une clameur, un soulagement, un râle sorti de tous les poumons du Stade de France. L'histoire s'est écrite à 22h17 à Saint-Denis ce lundi soir, avec comme personnage principal un athlète déjà exceptionnel au palmarès dingue, au talent suffisant pour s'illustrer au moment où tout le monde l'attend, sur la plus belle des scènes. Mondo, c'est son petit surnom, s'est envolé au-dessus de 6,25 m. Vous vous rendez compte ce que ça fait, 6,25 m ? Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça fait 6,25 m ? C'est très haut. Ouais. Ses deux premiers essais avaient suffi à montrer qu'il en avait dans les jambes une barre de science-fiction il y a encore quelques années. 25 minutes plus tôt, un premier cri s'élève déjà au Stade de France. Ah, un petit cri comme ça. Celle d'une foule excitée à l'annonce de l'imminence du moment historique. La speakerine du Stade de France lâche dans le micro. Carman Duplantis a demandé à monter la barre à 6,25 m. La hauteur pour battre son record du monde. Fixé un centimètre plus bas en avril en Chine. Le titre est déjà dans la poche, le record olympique du Brésilien Thiago Braz ringardisé depuis son passage tranquille à 6,10 m. Le mec, il a déjà battu le record olympique. Pfff. Armand Duplantis n'a même pas 25 ans, il est double champion olympique, il est deux fois médaillé d'or aux mondiaux, il est triple roi d'Europe. Au rayon des stats, il a amélioré 9 fois le record du monde. Voilà. Des références qui laissent sans voix. Et je remets la voix. Je remercie aussi Minos et Koskinou et Mauvais Perdant pour les subs et Atomic pour les beats. Merci. Comme quand le Stade de France a fait silence pour laisser le roi de la soirée aller sonner la cloche des champions olympiques au bord de la piste. Je fais très bien la cloche. Une question reste en l'air. Oh ! Une question reste en l'air. Oh ! Joli. Comme cette barre à 6,25 m, a-t-on assisté au plus beau moment d'athlétisme de ces Jeux ? C'est fort possible. Est-ce que cette barre à 6,25 m est le plus beau moment d'athlétisme de ces Jeux ? C'est fort possible, estime le Parisien. Bon, d'athlétisme. Hein. Il y a eu Riner, c'est pas de l'athlétisme. Il y a eu Léon, notre nageur préféré, c'est de la natation, c'est autre chose. Peut-être. Moi, je pense que tout sport confondu, le plus beau moment de ces Jeux, à l'heure où on parle. Je ne vais pas mettre tout le monde d'accord. Je ne vais pas mettre tout le monde d'accord. Je pense qu'il a été vécu hier par les gens qui étaient au stade de volley sous la Tour Eiffel. Je pense que c'était le plus beau moment parce que mon épouse était dans le stade. Voilà. Et donc, le public, y compris les champions, ont pu profiter de la présence de mon épouse. Voilà. Et les gens l'ont senti inconsciemment, intuitivement, ils ont vécu là le plus beau moment des Jeux parce qu'elle était là. Ils ne savaient pas pourquoi. C'était... Ils l'ont senti. À mon humble avis, très objectif, je pense que c'était le plus beau moment des Jeux. En toute objectivité. Voilà. La carotte sévère. Bru, personne ne la connaît, ton épouse. Ben si, en fait. Peut-être que vous la connaissez. Mais comme vous ne l'avez jamais vue parce que je la cache... Eh ouais. Eh, vous ne savez pas. Je vous ai déjà parlé de ma femme ou pas ? Ouais, sévère la carotte, tout le coup. Ouais. Ouais, la carotte, si je t'attrape, je te prends, je t'épluche, je te coupe en petits morceaux, je te cuis vapeur, minute, je fais une purée, tu vois, la carotte là, regarde, la carotte sévère là, je te prends la carotte, je t'épluche, je te coupe, je te cuis au bain-marie, doucement, pour que ça chauffe, mais doucement quoi. Après, je t'écrase. Je te fais une purée de carottes. Et après, tu sais ce que je fais ? Je la mets à la poubelle, là. La purée de carottes. Bam ! Alors ? Ça peut partir à tout moment avec moi. Merci, Tandou, pour le quatrième mois. Bon. Pour finir, surveillons aussi les Français dans les sports collectifs. On rêve de plein de belles choses. Finale même maintenant pour les Bleus en football, vendredi 18h au Parc des Princes. Hein, des Princes, ce sera contre l'Espagne. Hop, on y croit, moi j'y crois. Volley, on y croit aussi. Il y a une demi-finale à venir. Ce sera quand ? Ce sera mercredi à 20h contre l'Italie.
Ok.
Le basket, c'est très compliqué pour les basketteurs français. On a un quart de finale aujourd'hui à 18h contre le Canada. Ça va être très compliqué, mais on y croit. Voilà, les amis, pour la revue de presse. Mais ça n'est pas terminé. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, je vais vous proposer de venir jouer avec moi. De venir dans un studio avec moi pour faire un super stream pour la nouvelle édition. Je mets collaboration commerciale sur l'écran parce que c'est où ? De Time Out ! Exactement, point d'exclamation Time Out dans le chat. Merci Pépin Camille, tu régales, t'as tout compris. Voilà. Si vous cliquez sur le lien qui vient d'être accroché en haut, vous avez toutes les infos. Enfin, je vais vous expliquer, mais je vais vous donner les infos. Mais voilà, il est important ce petit lien. Il va permettre à certains d'entre vous de venir jouer avec moi. Le tournage aura lieu à Paris. Mais à la prochaine édition de Time Out. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, on a lancé un grand jeu. Il y avait 8 candidats. Il y avait Étoile, il y avait Sunday, il y avait PA, il y avait Rivenzi, il y avait Trivia, si je ne dis pas de bêtises. Bref, et le jeu était vraiment sympa. C'était un grand jeu de culture générale, voilà, sur ma chaîne Twitch. On va aller voir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Il y a eu un numéro pour ce jeu qui est événementiel, quoi, qui est pas amené à revenir toutes les semaines.
Où aller quand on a...
Et du coup, il y a 3 nouveaux numéros qui arrivent à la rentrée. Voilà. Hop. Je vous mets les images de la première édition qui a eu lieu l'an dernier, bon, qui était sympa, on a bien rigolé, ça a bien plu, ça vous a plu. Mais bon, c'est une émission qui est un peu lourde à monter. Et donc, il nous fallait un partenaire pour pouvoir faire d'autres numéros. Et là, on a trouvé un partenaire qui est... la SNCF, qui est le TGV Inouï pour être précis, avec qui on va faire 3 émissions. Padam ! D'ailleurs, si vous tapez point d'exclamation TGV dans le chat, vous avez également le lien que je vous ai mis en haut. Donc merci déjà à TGV Inouï, parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire ces 3 émissions. Le TGV qui va aussi nous permettre de rejoindre les villes dont je vais vous parler, parce qu'il y a un lien avec 3 villes. Je vous montre d'abord. Oui, c'est Inouï. Bien joué. Non, pas tram. Non, pas point d'exclamation tram. Hop. Là, je vous montre. Hop, ça c'était ce qu'on a fait l'an dernier, enfin la saison dernière. Alors attends, où est-ce que c'est ? Là, ici. Voilà, ça c'était Time Out. Time Out ! Bonsoir à tous, et eh bien vous savez maintenant pourquoi cette émission s'appelle Time Out, un petit écran d'accueil de 30 minutes, je pense que c'est pas mal du tout. Bienvenue dans Time Out. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. C'est drôle parce que l'émission s'appelle Time Out et elle a commencé avec 30 minutes de retard. Parce qu'il y a eu des lights qui ont explosé à une minute de l'antenne. Donc l'émission s'appelle Time Out. C'est une émission qui parle notamment du temps, c'est un jeu. Voilà. Et on a commencé avec 30 minutes de retard. Ça, bon, ça a suffi pour me faire.
Passer un joli moment en notre.
Donc ouais, bon, je vous montre le plateau, c'est la fête. Regardez, Théma. Donc il y avait PA, il y avait Trivia. Elian, Elian Ventre, ok, donc une équipe, ok. Et de l'autre côté, il y avait Rayou, le Rayou barbu, là. Voilà, il y avait Sunday, qui a gagné cette première édition, en finale, face à Rayou, et il y avait Gigi, on a bien rigolé. Donc on avait un beau plateau, on avait une belle émission, il y avait de la bonne humeur, il y avait des sourires, voilà. Hein, les images, voilà. Et donc, bon, bref, la première émission était super sympa. Et c'est une émission événementielle. Donc l'idée, c'était que ça puisse revenir de temps en temps quand on trouverait notamment les moyens de la faire, parce que c'est une émission qui est un peu lourde à produire. Et je vous le disais, on a trouvé un nouveau partenaire, TGV Inouï, bon, l'exclamation de TGV, non pas Tuk Tuk, pour 3, non pas une, non pas 2, mais 3 nouvelles éditions de Time Out, voilà, avec à nouveau des streamers, des streameuses pour jouer à ce jeu de culture générale, culture pop, mais aussi 3 viewers. Il y aura une équipe de viewers, une équipe de streamers. Oui, mesdames et messieurs, oui. Et je crois que j'ai même le visuel qui va se regardez, regardez la qualité de la réalisation, qui va venir se plaquer sur ma tête. Bam ! Voilà. Time out. Voilà. Présenté par Samuel Etienne. Bon, bah c'est, ça, c'est le BG, on ne vous le présente pas. Voilà. Avec la participation des viewers. Ça, c'est la nouveauté. À la place de trois des streamers, là, vous aurez trois viewers. Et peut-être vous. Voilà. Ouais. Voilà. Pour représenter les villes, pour l'instant, c'est pour trois émissions, donc trois villes. Montpellier, Lyon et Marseille. Voilà. Et pourquoi je vous en reparle aujourd'hui ? Bah, tout simplement parce qu'en fait, l'appel à candidature pour la ville de Montpellier, en fait, je crois que ça s'achève le 12 août. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. Et le lien que je vous ai mis en haut, il permet justement de participer. Alors, je vérifie un petit peu les infos. Donc, Time Out de retour, je vous l'ai dit. En collab avec TGV Inouï, je vous l'ai dit. Donc, il y aura une émission en septembre, une émission en octobre, une émission en novembre. Voilà. Donc la nouveauté, c'est qu'il y aura trois streamers et il y aura trois viewers. Voilà. Voilà. Et première étape, Montpellier. Voilà. Et si vous cliquez, qu'est-ce qui se passe ? Si vous cliquez sur le lien qui est en haut, eh ben vous allez voir ce qu'il y a. C'est vachement bien foutu. Tac, 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 tac. Et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Regardez, hop. Si vous cliquez sur, par exemple, donc vous avez trois destinations. La prochaine en septembre, ce sera Montpellier, d'accord ? Ok. Si vous cliquez là pour participer, eh ben vous avez toutes les infos. Il faut habiter Montpellier ou les alentours. C'est assez large, hein, aux alentours de Montpellier, voilà. Il y a toutes les explications ici. Il faut être majeur, voilà. Habitant de Montpellier ou dans un périmètre de 30 km, voilà. Et tu as jusqu'au 12 août pour tenter de participer. Voilà. Alors, si tu veux préparer, donc il y a un test à passer, voilà, pour voir si tu as le niveau et tout. Et donc là, tu remplis, tu commences le test et le test est organisé pour que, en fait, tu puisses, voilà, que tu aies un temps limité pour pouvoir répondre, pour que tu puisses pas tricher, quoi. Voilà. Et pour que, en gros, tu aies le meilleur niveau possible pour que tu puisses laver l'équipe de streamer qui sera opposée à toi. Voilà. Hop, voilà. Touk. Là, vous avez toutes les infos. Voilà. Donc, ceux qui n'ont... Alors, je sais que certains parmi vous se sont déjà inscrits pour tenter de participer à l'édition de Montpellier. Et je pense que vous pouvez... On va faire le test tout de suite. Vous pouvez déjà faire la même chose pour Marseille. Voilà. Donc, et Lyon. Hop, regardez. Voilà. Sachant qu'en gros, a priori, ce sera septembre, octobre et novembre. Voilà. C'est les qualifications par test, exactement. Non. Alors, pour l'estimation Delta Plane, ça ne marche pas. Pour l'exclamation Delta Plane, ça ne marche pas. Non, patin roulette non plus. Non, 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 non. J'habite à Marseille, mais je n'ai pas le niveau. Tu sais pas ce qu'est Alien Twitch ? C'est plutôt des questions de culture pop en vrai. Hein. Monostick, ça ne marche pas non plus. Voilà. Alors, quelles infos j'ai le droit de vous donner encore ? Est-ce que j'ai la date du premier ? Moi, je l'ai, mais je ne sais pas si j'ai le droit de communiquer encore. Bon, ce sera septembre, ok ? Ok. Et vous avez jusqu'au 12 août pour vous inscrire, 12 août pour celle de Montpellier, pour tenter de participer. Ok. Ah oui, il y a un autre truc qui est sympa. C'est que si vous êtes retenu parmi les trois pour participer, par exemple, à l'émission de Montpellier, évidemment, on vous paye tous les frais pour venir à Paris. Parce que le train, l'émission aura lieu à Paris. D'accord ? Évidemment, on vous paye l'hôtel et on vous paye le transport, le train. Et le train va me permettre aussi, parce que bon, il se trouve que moi, je suis un peu un fan du train, j'ai toujours aimé le train, c'est toujours un peu mon moyen de transport favori, pour moult raisons. Le train va me permettre aussi de me rendre à chaque fois avant dans les villes concernées pour rencontrer en fait les viewers. Donc les trois viewers sélectionnés, j'irai quelques temps auparavant à Montpellier, à Marseille et à Lyon pour les rencontrer et passer un petit après-midi, faire des petits trucs, petites promenades, etc. Voilà. Et on sera même a priori avec l'un des streamers invités. Voilà. Et donc le train, pour le coup, on est au-delà du soutien par TGV Inouï, c'est aussi l'outil qui va nous permettre de faire cette émission. Voilà. Pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Voilà. Donc d'amener les viewers et les streamers à Paris pour l'émission, et puis moi aussi d'aller dans les villes pour rencontrer les viewers. Est-ce qu'on peut inscrire un ami ? Ben non, parce qu'en fait, il faut passer le test. Passer le test. Vous êtes bête, moi je paye pour venir. Non, ce sera tout frais payé. Le petit déj aussi, oui, je pense que oui, le petit déj aussi. Puis s'il n'est pas payé, je vous le paierai, moi. Voilà. des choses à gagner pour les viewers. Je crois pas qu'il y ait des choses à gagner, en revanche. Lors de la première édition, on avait fait gagner un trophée, quoi. Voilà. Les snacks sont offerts. Ouais, si tu manges des cacahuètes, encore. Mais si tu vides le minibar et tu bois les 15 mignonnettes de whisky et de vodka, je sais pas, on verra avec leur gars, quoi. Tu vois. On a quoi à droit? À trois à quoi pour le petit déj? Je crois pas les questions, putain. Est-ce qu'on peut prendre le peignoir? Est-ce qu'on peut passer le test pour le plaisir? Bien sûr, bien sûr. Bien à volonté, mais arrête. Vous êtes bête quand même. Oh, je ris. Ah, voilà, donc allez, hop, je coupe le son, mais voilà. Et là, ça, c'était l'édition qui a eu lieu il y a quelques mois. Là. T'es mal plateau. Donc on va retrouver le même plateau, hein. Avec voilà, ce jeu de culture générale qui joue aussi sur la notion de temps, avec un temps limité pour répondre à certaines questions. La première édition était vraiment sympa. Après, c'était... c'est quoi cette pub qui pop, là? Après, c'était une première édition, donc là, on avait trouvé que finalement, les règles étaient peut-être un petit peu trop nombreuses et complexes. Donc, on va aller vers une simplification un petit peu, mais ça va être sympa, quoi. Le plateau est super joli, ouais. Voilà. C'était du bon boulot. Et on avait bien ri. Voilà. Donc, je vous attends, les amis. Hop, je vous mets de nouveau le visuel. Paf! Voilà. Voilà. Pourquoi Tom Cruise est affiché sur le visage? Je pense quoi, ça va être un bug. Je vous attends. Voilà. Vous avez jusqu'au 12 août pour tenter de participer donc à ce retour de Time Out version Montpellier. Et après, il y aura Lyon et il y aura Marseille. Vous avez toutes les infos sur le lien. Est-ce que les pantoufles sont fournies? Je pense que oui. Non, c'est pas un poisson d'avril. C'est un vrai truc. Attends, ça fait des mois qu'on bosse là-dessus. Ça fait des mois qu'on bosse là-dessus. Ouais. Non, le plateau est super. Ouais. Mais franchement, en plus, l'émission avait vraiment marché, il y avait une super ambiance. Donc, je suis très heureux de refaire ces trois éditions-là. Mais bon, c'est vrai que c'est du taf. Hein. On n'a pas popé ça il y a deux jours. Hein. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Ça se fait pas comme ça. Mais il y a une super équipe. Merci Jean-Michel de Buffalo Grill pour le deuxième mois d'abonnement. Merci Bartouf pour le dixième mois. Merci Tandou pour le quatrième mois. Merci Mauvais Perdant. Des questions? Possibilité de conduire un train? Non, je crois pas. Non. Il y aura Joe à la photo? Je ne sais pas trop si Joe sera par là. Peut-être bien. Il n'y aura pas Joe à la réalisation. C'est une autre équipe. Mais en tout cas, il est au courant de tout ça, bien sûr. À deux doigts d'envoyer à ma grand-mère pour qu'elle démonte des petits jeunes. Ben, en vrai, Nick, il n'y a pas une question d'âge. Si le viewer il a 95 ans, je prends moins. Tous les viewers peuvent participer, même étoile. Tu veux dire que dès qu'il y a un jeu de culture générale, il ne peut pas s'empêcher de venir jouer, c'est ça? Il sera peut-être invité, Rayou, je ne sais pas. Remarque qu'il a déjà participé à la première édition, donc peut-être qu'on veut changer. D'autres villes à l'avenir, bah je l'espère en fait. Je l'espère. C'est comme notre partenaire, c'est TGV Inouï. C'est avec eux qu'on a défini les villes en fonction des villes qui intéressaient aussi la TGV Inouï par rapport aux enjeux de passagers, tout ça. Voilà. Donc moi, je serais très heureux qu'après on aille sur d'autres villes, qu'on fasse notamment vers la moitié nord. Je sais pas, Lille, Rennes, je sais pas, Brest, Bordeaux, moitié nord. Bravo Samuel. On est plutôt sur l'ouest, mais voyez, tu vois. Moi, j'aimerais beaucoup. Ouais. Bon, là, on part sur trois émissions pour l'instant. Metz, Nantes. Il faudrait un wagon de tournage pour le Time Out et faire le tour de France avec. Mais trop bonne idée, en vrai. Ouais. On est sur la fin, Ryugo, on a fait la revue de presse, mais tu l'as en replay. Tu l'as en replay sur Twitch et demain sur YouTube. Ouais. Dunkerque. Paris. Non. À partir de quel âge? 18 ans. Il faut être majeur. Mais non. Metz. Le Havre. Ouais. Et donc ça fait trois belles choses. Donc ça, c'est vraiment ma rentrée, elle va être prise par ça. Donc ça, c'est une belle chose qui arrive à la rentrée. Et puis il y aura aussi il y a un autre truc que je vais vous annoncer bientôt. Voilà. Je crois que je voulais pas annoncer ça encore, la grosse émission qui arrive à la rentrée là, la nouvelle émission. J'en ai pas parlé encore. Les modos, ils savent. Puis il y a le The Event, bien sûr. Voilà. Et puis ça me plaît, que je vais essayer de faire revenir aussi. Voilà. Ben, les modos sont au courant. T'es pas épuisé avec tous ces projets? C'est du boulot. Mais il y a un gros truc qui arrive à l'entrée. Comme le dit Mathieu qui gère la chaîne YouTube, ouais, c'est un banger qui arrive. C'est un gros truc. Les modos sont dans la confidence. Ils ont vu à quoi allait ressembler cette nouvelle émission qui arrive, qui est autre chose. Voilà, et ça, je pense que ça va le faire, ça va être sympa. Mais en tout cas, leur avis pour moi était très important. Voilà. Non, c'est pas le The Event, c'est autre chose. Voilà. Mais on en dit pas plus. Mais c'est C'est un de mes plus gros projets sur Twitch depuis que je suis là, quoi. Un des plus gros, voire le plus gros. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, je vous attends sur Time Out. Ça me fait vraiment plaisir si vous habitez les régions de Montpellier, de Lyon et de Marseille. Vraiment, tentez votre chance. Le lien est en haut. Faites le test même pour vous marrer. Vous allez voir, et c'est super bien fait. Hein. Les gens qui ont bossé sur les questions, c'est les gens qui bossent sur les questions de l'émission. C'est vraiment, c'est un travail de qualité. Vous allez voir, c'est vraiment bien foutu, quoi. Voilà. Ils ont sorti quoi, des donation goals au fait? Bah, je peux vous montrer. Hein. Je ne l'ai pas mis en forme, mais attendez. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer le document des donation goals qu'on a fait hier. Attends, j'espère que je suis toujours connecté. Ouais, je devrais l'avoir là, projet. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vous le montre. Il n'est pas mis en forme, mais c'est comme ça vous allez voir le résultat de 3 heures de brainstorming avec la commu hier. Voilà, c'est là. Vous allez rire. On a bossé. Hein. Regardez. Donc là, c'est pas en forme. Hein. C'est juste les trucs qu'on a couchés sur le papier hier soir tous ensemble. Premier donation goal. Revue de presse des articles parlant du The Event, 1000 euros. Okay, je ferai une revue de presse des articles qui parlent du The Event. Il y en aura plein. Ce serait marrant de commencer le The Event comme ça. Si on atteint 5000 euros, je joue à un jeu d'horreur. Vous savez que je suis très premier degré sur là-dessus, moi. Pendant le The Event, 5000 euros. Si on atteint 10 000 euros, je fais un react de mes premières games de Valo. Là, on va bien rire. Pour 20 000 euros, je dessine le portrait d'étoile et je lui offre pour son décor de stream. Sachant que je pense que je suis le Français qui dessine le moins bien de l'histoire de notre pays. Pour 30 000 euros, je fais au The Event la danse des canards avec le costume. Parce que je suis un grand passionné de la danse des canards. Pour 40 000 euros, je hurle café à chaque fois que je bois une gorgée de café. Pour 50 000 euros, Elidia me fait le cosplay qu'elle veut. Pour 60 000 euros, j'interview tous les Michel du The Event. Pour 70 000 euros, je me laisse pousser la moustache. Ça, je ne l'ai pas dit à mon épouse encore, donc ne le dites pas. Parce qu'elle, une fois, j'ai essayé deux jours, elle a failli partir. Live de 24 heures de Valorant, 80 000 euros. Je ferai un live de 24 heures non-stop de Valorant si on atteint 80 000 euros. Si on atteint 90 000, un live cuisine avec Monsieur Poulpe, Sunday, Elidia et Fugu. Je pense que personne ne sait cuisiner parmi ces quatre. Si on atteint 100 000 euros, je ferai un tour de France à la rencontre des viewers. Oui, mesdames et messieurs. Pour 150 000 euros, je montre tous mes tatouages. Voilà, mais il y a de la surface. Pour 250 000 euros, j'organise un Valo IRL. IRL. Voilà. Pour 500 000 euros, je me rase la tête au The Event en direct. Pour 750 000 euros, je refais un Ironman, sachant que je ne fais plus de triathlon depuis très longtemps. J'ai fait 3 Ironman à l'époque où je faisais un peu de sport. Et donc, je ferai un 4e Ironman, c'est-à-dire que je me réentraîne pendant un an pour retrouver le niveau Ironman. Bon, 750 000 euros, hein. Et pour 1 million d'euros, je me présente à la présidentielle. Voilà. C'est-à-dire que si jamais le président Macron démissionne, d'ici 2027, je me... Ouais, en live, on le streamera l'Ironman. Bien ou pas? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? T'as déjà plus de cheveux. Ça va, monsieur Salade? C'est bien ou pas? Sachant que... Bon, moi, mon objectif, c'est d'arriver à 100 000 euros, en gros. 150 000 euros, je serais fou de joie. 500 000 euros, il n'y a aucune chance que ça arrive, mais j'ai mis un truc de fou au cas où. Et 1 million, c'est pareil. Voilà. Ah bah oui, bah, tu te présentes sérieusement. Bah oui, après, c'est les donation goals. Si on atteint 1 million, je me présente à la présidentielle. Bonjour à tes souhaits. Salut, merci, c'est gentil. Si on arrive à 100 000 euros, par exemple, tu dois faire tout ce qui est avant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on arrive à 1 million, je fais tout ce qui est avant. Voilà. Bah après, qui m'en voudra de me présenter à la présidentielle si c'est pour avoir collecté 1 million d'euros pour des assos aussi cool que le Front Populaire, quoi. hâte de voir Samuel avec la moustache et la tête rasée. Bah, tu vois, j'ai même pas besoin de voir le pseudo pour savoir que c'est pas ma femme qui a écrit ça déjà. Hmm. Imaginez-moi avec le crâne rasé et la moustache, quoi. Oh putain. L'arc moustache chauve, comme dit Sugar Frog. Ah je voulais faire pour X, je me tatoue un gros logo du Z-Event dans le dos et mon épouse m'a dit non, tu mets pas ça. Là, j'ai senti qu'il n'y avait pas trop de négociations possibles. Voilà. Bah, Framboise, elle a raison. Framboise rappelle que même Zera a jamais fait beaucoup plus que 750K. Ah, Zera, il a quasiment fait 1 million sur sa seule cagnotte la dernière fois, quand même. Elle a dit, elle tatouage, elle a dit non, Hélène. Elle m'a dit non, c'est fini, tes conneries. Elle m'a dit, je suis assez. Je crois qu'elle. J'en ai parlé hier soir avant le stream et je lui ai parlé de ce projet-là. Elle m'a dit, je suis assez patiente globalement sur tes trucs, là, mais là, non. Voilà. Et là, quand. Voilà, tu sais, c'est le. Là, non, et la phrase, et le ton de la voix descend. C'est pas là, non, et ça ouvre le dialogue, c'est là, non, là, non. Là, non, et tu vois, et les yeux, hop, la voix tombe, les yeux un peu abattus, là, il n'y a pas d'égo. Là, il faut. Pour avoir un petit peu de psychologie, tu sens qu'il y a pas. T'es pas sur une discussion, là. Tu dis, OK, d'accord. Tu dis, OK, d'accord. Humblement, en plus. Tu vois, en mode, ouais, c'est une connerie. Là, non. Là, tu sens qu'il n'y a pas. On n'est pas sur un échange. Donc, il n'y aura pas le tatouage. Alors, par contre, ne lui dites pas pour la boule à Z et la moustache, par contre, s'il vous plaît. Parce que là, ça va être la même réaction. Ah, bon, les amis, on s'est régalé. Bon, c'est pas. Allez, je compte sur vous. Vous me rejoignez à Time Out, là. Hein, on va se fendre la gueule. D'accord. Et j'ai besoin de 3 viewers. Et des bons, hein, des forts. Hein. Il s'agit de battre les streamers, hein, bien sûr. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui vient jouer avec nous du côté des streamers et des streameuses et qui jouera parmi les viewers aussi. Ouais. On n'est pas sur Montpellier, bah, t'as qu'à déménager, Brésil Ben. Il y a Brésil Ben qui dit on n'est pas sur Montpellier, bah, tu déménages, hein, je veux dire, comme tous les streamers français. Hein. Donc, un problème, une solution. Hein. Dans la vie, il faut être positif. Hein. Alors, je suis sûr que ton boulot, tu peux le faire à Montpellier aussi. Hein. Faut se donner les moyens. Merci, Asmita. Merci. Il y a des gens un peu positifs dans le chat. Faut se donner les moyens. Voilà. C'est quand le Z-Event ? C'est le premier week-end de septembre, je crois. Ouais. C'est pas compliqué. Président Bonne qui a beaucoup d'humour, qui dit « OK, patron. » J'adore. Vous êtes trop chou. Il y a Mathieu qui dit « Je peux héberger un participant à Montpellier. » Les Belges peuvent participer ou pas ? Bah, si t'es un Belge de Montpellier, oui. Hein les places pour le jeu ne sont pas réservées à une catégorie de la population, contrairement à ce que certains programmes politiques voudraient mettre en place dans notre pays. Parce que tu es un Belge de Montpellier, on te prend. Nous. Ou de Marseille, ou de Lyon. Voilà. Merci Cocoviette pour le 30e mois d'abonnement. Merci Saplin pour le 4e mois d'abonnement. Merci. Je dis Saplin. Merci. On aime les Belges. Bon les amis, je vous laisse. Moi j'ai un petit rendez-vous à 13h30. J'ai un rendez-vous à 14h. Après, je pense que je relance un petit stream de Valo cet après-midi pour être bien ridicule encore. Après, je vous laisse parce que j'ai je vous laisserai encore sur un rendez-vous à 18h. Et puis on se retrouve donc cet après-midi pour du Valo et sans doute ce soir aussi pour du Elden Ring parce que mon épouse va faire un truc sur les Jeux Olympiques. Donc moi je vais ce soir je vais enchaîner en vrai ça va être tôt ce soir hein. Parce que comme elle ne repasse pas à la maison, je pense que je vais cut mon stream de Valo vers 18h. Ça à 19h30 20h, je relance Elden Ring. Hein. Triple stream baby. Triple stream. Eh oui mesdames et messieurs. Allez, y a qui en live qu'on fasse un joli petit raid là. Ouh, qu'est-ce qu'il fait là, mon chouchou ? Ok. Ok. Ok, ok, ok. On parlait de Valo, on va sur du Valo. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime bien.
C'est quoi ce truc ? Attends, ça a bugué.
Voilà. On va faire un petit Valo. Enfin, c'est pas. Voilà, un bon niveau, un très bon niveau. D'abord parce que le streamer qu'on va rejoindre est très très fort à ce jeu. Et aussi parce qu'en plus, là, il caste une compétition qui a lieu à Séoul. Voilà, donc, il est en plein commentaire. On va rejoindre Monfugu, voilà, qui est en plein commentaire, en caste de partie de VAO. De VALO, c'est quoi? C'est des VCT, non? Ah, bref, c'est à Séoul. Et puis, nous, on se retrouve pour du VALO à un autre niveau tout à l'heure. Voilà. Ah, ça, c'est VCT. Hein. Bon. Coucou à l'ami Fugu. Merci pour ce matin. Vous m'avez régalé. Il y avait vraiment une bonne ambiance dans le chat. C'était un plaisir, vraiment. Je vous retrouve cet après-midi pour du Valo, ce soir pour du Elden Ring. On stream. On stream fort en ce moment. Merci pour ce matin. À tout à l'heure. Ciao.
Si t'étais bodybuilder, c'est vrai? Vas-y, bah, s'il te plaît, envoie-moi mon futur. Envoie-moi ma version... Oh là 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 là, mais là, le temps de réaction! Non, mais ils sont sous Adderall, les gars, regardez le deuxième kill! Oh là là là, ça va vite! Il est sous Adderall!
Et bon.
Je fais de la muscu, je fais un peu de sport chez moi, mais c'est tout!
Le Samumu!
No way! No way! Samumu, le go! Merci Samumu, je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime!